I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est une bonne situation, ça, Scribe.
Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que...
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Ça va les mecs?
Ça va très bien.
Alors dans le dernier podcast, on me demandait comment j'allais.
Bah oui.
Je répondais jamais. Et bah je vais bien.
Ça fait plaisir.
Et bah ça fait plaisir. Notre invité du jour est Cyprien Yov. Comment vas-tu?
Bonjour, je vais très bien, merci.
Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore?
Je fais des vidéos. Je m'appelle Cyprien. Je fais des vidéos sur Internet essentiellement. Et voilà, c'est mon activité principale. Notamment aussi un peu de bande dessinée, un dessin animé prochainement et ce genre de bail.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un film français, et pas n'importe lequel, puisque nous allons nous pencher sur Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Film sorti en 2002, écrit, réalisé et coproduit par Alain Chabat. Quelque part un monument cinématographique dans notre pays, puisque Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est le quatrième film français à avoir obtenu le plus d'entrées au cinéma, derrière Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables, La Grande Vadrouille et juste devant Les Visiteurs. Plus globalement, si on inclut les films américains, c'est le 10e film le plus vu en salle dans l'histoire de notre pays. Il reprend en surface l'histoire de la BD originelle sortie en 1965, Astérix et Cléopâtre, en plus de posséder une patte propre à l'humour d'Alain Chabat. Ce film possède un casting à la hauteur de son ambition, Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, qui était alors à ce moment-là au top de sa popularité, Monica Bellucci, Édouard Baird, Gérard Damon, Claude Riche et un tas de rôles secondaires, de Mathieu Kassovitz à Marina Foïs, en passant même par Omar Sy, qui a été coupé au montage. Vous l'aurez compris, ce film d'un budget de 50 millions d'euros peut se targuer d'être l'un des films français les plus ambitieux de l'histoire. Alors les gars, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Cyprien.
Alors, je l'ai vu, moi, dans la salle des fêtes du village chez mes parents, donc dans les conditions les plus exécrables de la planète. Et en fait, le film m'a tellement explosé de rire que j'oubliais que j'étais dans une salle des fêtes qui sent la chaussette et tout.
Alors, t'avais quel âge à l'époque? C'était 2002?
2002, du coup, j'avais 13 ans.
Ok.
J'avais 13 ans et j'avais des convulsions de rire, quoi. C'était vraiment, je devais être un mec qui fait une crise d'épilepsie, quoi, sur ma chaise. J'ai rigolé chaque seconde et c'était culte. Chaque seconde qui passait, ça devenait culte, quoi.
Et t'as des souvenirs de la salle? Toute la salle se tapait des barres ou?
Ouais, franchement. Je sais pas si vous, ça a été, très accepté et très rigolé dans la salle, mais moi, c'était plié. Ouais, bien sûr.
Guillaume, ton premier souvenir?
Eh ben, je vais un peu gâcher la fête parce que je l'ai pas vu au cinéma, déjà.
Oh.
Et ouais. Oh.
Non, je l'avais en Divix avec écrit Divix en bas à droite.
Non, même pas. Le truc, c'est que je me souviens même pas de la première fois où je l'ai vu et en le revoyant là, je me suis dit, mais est-ce que je l'avais déjà vu en entier? Très bonne question. Je connaissais évidemment les scènes.
Donc c'est ton film préféré, du coup, notre.
C'est vraiment mon film préféré. Donc là, je l'ai revu il y a deux jours en entier. Évidemment, je connaissais les scènes cultes de genre les monologues d'Edouard Baird, etc. Toutes les blagues, on les connaît déjà. Mais je suis vraiment passé à côté de ce phénomène, en fait, de Mission Cléopâtre. Et du coup, en le revoyant, c'est clair, il y a deux jours, eh ben, quand tu le redécouvres vraiment un peu, un peu de plein fouet comme ça, bon, ben, ça a un peu vieilli quand même. Voilà.
Ouais.
C'est ce que j'en ai pensé.
Aurélien, ton premier souvenir?
Moi, je me rappelle l'avoir vu au cinéma, et en vrai, c'était l'événement, parce que c'était la liaison entre l'humour, Jamel, Nouveau, H, Comédie, etc., Canal+, et Alain Chabat, Les Nuls, quasiment l'équipe d'avant. Il y avait en plus le lien avec les Robin des Bois à l'époque, qui était aussi pas mal dans le film.
C'est ce qui m'a fait aussi vriller, moi. 13 ans, j'étais fan vraiment très très fan des Robin des Bois. Donc du coup, le fait que ça réunisse autant ce truc-là, pour moi, c'était un peu le samedi comédie, c'est ça,
ça s'appelle
comme
ça. Ouais, c'est ça.
Samedi comédie, tu vois, je regardais ça à fond et tout, et donc du coup, le film qui va avec, quoi.
Ouais, il y avait vraiment cet esprit-là, je trouve, et pour le coup, ouais, c'était un événement de ouf. Au cinéma, tout le monde était mort de rire. Jamel, à l'époque, c'était Robert De Niro, le mec. C'était un truc de ouf, non, mais franchement, c'était.
Ouais, c'est vrai.
Alors que, oui, peut-être que le film en soi, moi, je me rappelle surtout des bagarres avec Gérard Darmon. Je crois que j'avais jamais vu ça, genre une sorte de. C'était Dragon Ball le truc.
Mais mec, je rigolerais de revoir les images où tu sais ils font des trucs. C'était mais c'est.
Même la tête de Gérard Darmon, elle est folle dans ce film.
Il parle en chinois. C'est génial.
Il part en mode film de kung-fu et tout ça, ça m'avait vraiment fait mourir de rire. C'est vraiment les premiers avec le Edouard Baird bien sûr aussi tous les. Les monologues qui s'arrêtent jamais. En fait, il y avait tout l'esprit Canal que je trouvais trop ouf à l'époque où Edouard Baird il faisait aussi toutes les séquences pendant Nulle part ailleurs, je crois.
Ouais, qui s'appelait, j'ai oublié, le bureau
Le bureau des visionnages, machin du
centre de visionnage. Ouais, exactement.
Et à chaque fois, il partait en improvisation. Moi, j'étais un fanatique de tout ça. Donc, j'avais l'impression qu'ils avaient mis tout ça dans un seul film. Donc, à l'époque, ouais, c'était un truc de ouf.
Et toi, JB?
Moi, mon premier souvenir, c'est déjà la consécration de Jamel Debbouze. Parce qu'il faisait le cinéma de Jamel sur Canal+. C'était à l'époque l'humoriste le plus populaire en France. Et là, ce film, ça l'amenait dans une autre dimension. C'était vraiment la consécration de Jamel. Et on sent vraiment que, et d'ailleurs, je l'ai lu en faisant des recherches, à la base, ils savaient pas vraiment quel Astérix adapter. Et puis finalement, très vite, ils se sont rendus compte que, pour plusieurs raisons, ils allaient adapter Astérix et Cléopâtre parce que ça permettait de donner un rôle sur mesure à Jamel Debbouze qui pouvait jouer numéro bis, comme dans la BD. Et voilà. Donc d'abord, c'est la consécration. Et mon autre souvenir aussi, c'est que le type qui m'avait fait le plus rire dans le film à l'époque, je m'en souviens, c'était le personnage de Dieudonné. Et j'ai revu le film hier. Et ça, du coup, ça me faisait un peu regretter la trajectoire qu'il a pris après. Parce que ça m'a fait rappeler à quel point il était fort, en fait. Il était vraiment très fort. Et du coup, c'est dommage parce qu'il est totalement parti en couille après, on le voit plus. Et il est drôle. Enfin, Achaba, il lui a écrit un rôle vraiment en or.
Et c'est marrant que vous parliez tous de Jamel et tout, mais moi, genre, j'aimais bien son perso, mais genre, je m'en foutais. Et encore aujourd'hui, je m'en fous. En fait, c'est vraiment le film de Achaba qui me m'a fasciné. Et dedans, effectivement, il fait et les Romaniens ou les Romains, vous êtes des Romaines, tu vois et tout. Mais ça, par contre, tu sais, j'étais en boucle sur le film, je faisais toutes les répliques et tout, et je me calmais, tu vois. J'essayais vraiment d'en dire genre un dixième de ce que j'avais envie de sortir à chaque seconde quand j'avais 13 ans, quoi. Mais par contre, je refaisais jamais les trucs de Jamel. Je sais plus, à un moment, ils sont dans une sorte de petite tente dans le désert.
Ouais.
Et ils font Imhotep, non, c'est ça?
Ouais. Ils répètent Imhotep.
Ouais, voilà. Ouais. Et ça, tous mes potes, ils faisaient ça, le truc avec Gad Elmaleh, tout ça. Et, ça me faisait marrer, mais moi, c'était vraiment tout le reste, dès que c'était un peu plus imagé, toutes les parodies de trucs et tout.
Bah alors justement,
il y a vraiment ce truc. Non, mais en le revoyant là, je me suis dit, il y a vraiment une blague qui était parée dans la Cité de la Peur et qui est vraiment un truc des nuls où ils disent.
Ah, quand ils partent en reportage et
tout. Ouais, où ils font genre, cette scène est beaucoup trop violente, on va vous montrer un reportage sur la langouste.
Okay. Ouais, c'est pendant ce temps-là, Veracruz.
À ce moment-là, il y avait plus trop de, enfin, tu sais, il y a plus de musique, il y a plus d'ambiance et tout. Dans la salle des fêtes du Muy, il y avait que moi qui rigolais, qui faisait. À ce moment-là, j'étais plié. J'en pouvais plus.
Alors
cette
justement,
vanne.
Cyprien, c'est une bonne transition. Si tu devais ressortir comme ça une vanne du film, ta vanne préférée du film.
Alors c'est impossible, mais je pense que en image et le quand Achaba dit ce truc pointu là, avec le petit bruit et il fait la petite pyramide. C'est de la merde, mais ça me tue. Et il y a une sorte de sous-vanne que j'ai vu. Donc j'avais le DVD moi. Ok, c'est le seul. Je pense que c'est le seul DVD où j'ai demandé à ma mère genre je veux ce DVD, la version collector, ni plus ni moins. Tu vois, je l'ai eu parce que j'ai beaucoup de persévérance.
Après ça coûte 15 euros.
Ouais. Non mais on a acheté assez peu de DVD donc j'étais très content de l'avoir. Je l'ai regardé un milliard de fois et il y a une vanne dedans que j'ai vue au bout de la sixième fois, ce qui était pas normal, mais c'est un moment et juste c'est un plan de coupe où t'as les Romains qui prennent des lances, ok.
Ouais.
Ils prennent des lances et tout. Tu vois comment on appelle ça, c'est un nom.
Une rangée.
Ouais, un truc où tu mets les armes. C'est voilà, le nom va m'en venir. Et dedans il y avait des lances et on voyait juste des gens qui prennent et on entend au son, c'est une vanne qui était ajoutée en plus. On entend 1, 2, 3 et donc c'est juste ça, tu vois. Et la vanne c'est juste 1, 2, 3, 5 4 et en fait juste c'est des lances, on s'en branle, il y a pas de chiffre, tu vois. C'est juste ça, quand je l'avais
entendu. Ça, c'est très les nuls comme vanne.
Ah, c'est clair.
Et Achaba rajoute beaucoup de trucs à l'audio. Et vous regardez n'importe lesquels de ses derniers films. Il y a beaucoup de trucs à l'audio qui sont ajoutés. Moi, j'avais vu le marsupilami Et à un moment, il y a un plan large avec Fred Testo qui dit un truc, mais ça se voit que la labiale, elle colle pas. Mais il a quand même rajouté une vanne, genre vas-y. Se voit qu'il, tu sais, il a rajouté une vanne à l'audio et ouais, c'est un large. On voit pas la labiale, on y va. J'ai vu aussi des petits raccords un peu chelous, mais qui sont hyper drôles. Dans le dernier film
Santa Claus.
Santa et compagnie, non?
Santa et compagnie. Ah, Santa et compagnie, ouais. Santa Claus, c'est celui de Kurt Russell.
Ouais, non, Santa Claus, c'est avec Tim Allen.
Bon, non, Super Noël.
Ça, c'est Super.
Super Santa?
C'est Super Noël en français Noël, et Santa Claus en.
Ah oui, The Santa Claus.
Ouais, c'est la Close, genre le contrat.
Ah, Close.
Mais alors, justement, la transition est bonne, c'est. Ah oui, je refais ma transition. Guillaume, ta vanne préférée du film?
Bah, ma vanne préférée, je pense que c'est comme tout le monde, mais juste Edouard Baird, monologue, il est brillant de ouf.
Ouais. C'est pas une blague, ça, pour le coup, c'est. Hein.
C'est incroyable.
Non, mais ça m'avait marqué de ouf aussi.
Et il y avait un truc, non, mais je trouve que la vanne qui est bonne aussi, c'est quand justement on parle de Dieudonné et Darmon, qui disent, c'est vraiment comme ça qu'on fait la guerre, un truc comme ça. Ou je sais plus ce qu'ils disent, tu vois, et ils font, non, je pense pas, non.
Oui, ils font un non-si pendant.
Je crois que c'est genre, ouais.
Archi long.
C'est normal de, ils ont les moyens, tu vois. Et oui, mais il faut pas que les, c'est une blague un peu là-dessus. Genre, quand t'as les moyens, effectivement, tu peux faire ça.
Ouais, c'est ça, mais il faut pas que ça.
Il y a pas que, non, pas que ça.
Donc, ça dure déjà méga longtemps. Après, il y a la baston.
Et après, ça revient.
Et ça revient, ils sont là.
Non.
Si.
Toi, Aurélien, ta vanne préférée?
Je sais pas. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait marqué le truc d'Itinéris, là. Oh, non, ça n'a plus aucun sens, bien sûr.
Alors, pour ceux qui sont plus jeunes et qui nous écoutent et qui forcément ne savent pas ce qu'est Itinéris, Itinéris, c'était un réseau de téléphonie mobile.
C'était le lancement de France Télécom, c'est Orange, quoi.
C'est une sorte d'SFR d'époque.
Le début d'Orange.
Beaucoup de gens avaient été chez Itinéris.
Ouais, c'était le début des téléphones portables et tout. En fait, c'est une blague qui est vraiment dans le moment. Mais pour le coup, je trouve que c'est une blague qui est très Astérix. Donc, comme Goscinny, il mettait.
C'est un nom. Enfin, c'est une blague par rapport au nom des personnages.
Ouais, et puis en même temps, il avec un truc de la vie de tous les jours moderne. Donc faire le truc genre c'est vieux mais en même temps ça parle de maintenant et tout. J'aime bien ce genre de blague parce que c'est absurde de les remettre dans l'esprit de Astérix. Et après moi ma blague préférée quand même c'était que Astérix et Obélix en fait, on s'en fout dans le film. Et ça m'a fait une blague pour tout.
Ils sont un peu passés au second plan clavier Depardieu finalement dans le film
parce que dans les autres films aussi non.
Mais Jamel il avait tellement un, on sent que le film est pour Jamel avant tout.
Ouais.
Et avec la patte Chabat, c'est vraiment le.
Surtout, il y a un méga casting de comiques, quoi.
Ouais,
en plus. Il y a tous les Robin des Bois, il y a Dieudonné, il y a Darmon, etc. Tu sais, il y a pas beaucoup de place non plus.
C'est comme Clavier et Depardieu, normalement.
Ouais, bien sûr.
Je te jure, c'est pas censé être, tu vois.
Attendez, juste, je reviens sur, après, on va pas faire la liste de toutes les vannes, mais je suis obligé de dire.
Tu peux les sortir maintenant, là. Tout le temps que tu les.
Alors, pour le coup, je pense que pas de palais. Ça, c'est sûr. 80 piges sur mon lit de mort, je le sortirai encore, tu vois. Dès qu'on me dira pas de, je sais plus, tu vois, on me dit n'importe quoi. Ouais, ben bah, s'il y a pas de ça, et après je ferai pas de palais. C'est sûr, je le sortirai toute ma life, quoi.
Ouais, c'est drôle. Sûr. Et d'ailleurs, justement, ce qui est fou en plus, c'est que Darmon c'est un personnage hyper important dans le film. Et il faut savoir qu'à la base, quand le film s'écrit, quand Chabat écrit le film, Darmon est dans une dépression terrible suite à une relation amoureuse, etc. Grosse
super
dépression.
Super ton podcast. J'adore l'ambiance.
Bonne vibe.
Grosse dépression. Et un jour, il déjeune avec Vincent Lindon. Et Vincent Lindon lui dit.
Grosse dépression aussi, j'imagine. Là, comme ça, je ferme les yeux, je vois les deux. Pas la grosse.
Non, Lindon, elle est plutôt bien. Et Lindon lui dit, tu sais que Chabat est en train d'écrire un Astérix, là. Darmon ne savait pas. Il fait, ah bon, très bien. Il tournait plus trop. Et là, finalement, il appelle Chabat et lui dit, ça te dirait qu'on allait boire un café, ils vont boire un café.
C'est-à-dire que je m'impose dans ton film.
Complètement, parce que Darmon lui dit, bon, écoute, j'ai appris par Vincent que tu écrivais un film Astérix. Tu penses que tu pourrais me placer dans le film, un petit rôle? Et Chabat, direct, lui a dit, non, mais t'inquiète pas, toi, t'auras un bon rôle, pas de souci, je te mettrai dedans. Et finalement, il lui offre un rôle extraordinaire.
Ah, mon beau fils.
Donc, il a eu raison de solliciter le truc.
Wow.
Et pour revenir sur les vannes, en fait, moi, je l'ai revu hier, je l'avais vu une fois au ciné, un peu après en DVD. Et donc, je l'ai revu depuis, ça faisait peut-être 20 ans, enfin 15 ans que je l'avais pas vu.
Jamais revu.
Non, je l'ai jamais revu. Et hier, je l'ai vu. Et je crois que la vanne qui m'a fait le plus rire, c'est une vanne que balance Maurice Barthélémy à un moment donné, parce qu'il y a une course-poursuite entre Astérix et deux Romains, ouais, avec un chariot.
Oui.
Et donc, il y a des chevaux. Et t'as deux Romains, dont Maurice Barthélémy, qui essaie de rattraper Astérix. Et en gros, avec les chevaux, il est
il fait
ya, ya, ya. Et après, il rajoute, mais pourquoi je crie tout le temps? Ya, ya, ya! Et c'est ce genre de connerie qui me fait rire, en fait.
Et bah, ouais, moi aussi. C'est ce genre de détails et qui sont très Robin des Bois en plus.
Ouais,
et
ouais,
ou Chabat, parce que pour moi, j'ai du mal à dissocier les deux.
Ouais, bien sûr.
C'est, pour moi, quand je vois les Robin des Bois, je vois ce que Chabat, il aurait pu faire dans un second temps aussi, en quelque sorte. Enfin, je vois l'héritage. Pour moi, les Robin des Bois, c'est, c'est du Shabbat et des Monty Python. Donc c'est pour moi le meilleur mélange de la planète, tu vois. Encore aujourd'hui, tu vois, si on me dit ouais, tu mélanges les deux, ça fait un cyborg et j'adorerais ce truc-là, quoi.
Mais t'as raison parce qu'il y a plein de références dans le film. Donc il y a les Monty Python, il y a aussi les As parce que il y a aussi Mel Brooks, il y en a plein. Oui, il y a aussi les As parce que.
C'est quoi les As hein?
Les As, c'est ceux qu'on fait. Y a-t-il un pilote dans l'avion?
Ah, oui, okay.
Shabbat en est fan et en gros eux ils ont l'habitude de parodier d'autres films. C'est un peu le cas dans Y a-t-il un pilote dans l'avion.
Mais là il y a plein de parodies.
Et là en fait en revoyant hier, je me suis dit il y a tellement de parodies des films. Il y a Star Wars, il y a Forrest Gump,
ouais.
Il y a Jurassic Park,
il y a Bruce Lee aussi.
Il y a Bruce Lee quand ils se battent à la fin. Et en fait on peut comme ça compter à peu près 10-15 références de films.
Il y a plein de jeux de mots de chansons françaises aussi.
Exactement, ouais. Alexandrie, Alexandra,
il y a Iseo Santiano aussi.
Ouais. Il y a même une référence, un clin d'œil dans le clin d'œil, avec Depardieu qui fait quand même une réplique de Cyrano.
Ah bah ouais.
Donc ça que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de références un peu partout. Je trouve ça assez cool. J'en parlais plutôt.
Est-ce que c'est le film qui a coûté le plus cher quand il est sorti?
Ouais, exactement.
Est-ce que encore aujourd'hui c'est le plus cher ou pas?
Alors j'ai lu là-dessus. Je crois que c'est encore un des plus chers.
C'est sûr, c'est
faudrait aller checker l'info, mais je pense qu'il est aisément dans le top 3.
T'as pas assez travaillé, JB, c'est ça? C'est le plus cher, c'est pas le plus cher. Réponds, qui a un podcast au cinéma?
En fait, j'ai balancé le top 3 pour être large. Il est dans le top 3 des meilleurs.
Mais je crois que Besson avec Valérian, il a battu ce truc.
Ouais, mais est-ce que c'est pas une coproduction américaine ou allemande?
Avec des acteurs français et tout, c'est peut-être encore un des films les plus chers.
J'en parlais plutôt dans l'intro, au moment où il joue dans le film. Jamel est sur le toit de la France. Est-ce que vous, à l'époque, vous étiez sensible à son humour, Jamel Debbouze? Comme pratiquement toute
son
la France.
C'est son premier spectacle, le deuxième aussi m'avait beaucoup marqué.
Ouais. Parce que moi, en revoyant le film hier, je me rends compte quand même que c'est un humour qui est toujours aussi bon. Mais par exemple, on en parlait tout à l'heure en off avec Guillaume, les Zimdim Zimdam, c'est un truc qui a quand même un peu mal vieilli. Tu vois.
C'est comme moi, j'avais la cassette gagnée à la station de service des mots d'Eric et Ramzy. Okay. Et à l'époque, déjà, tu peux pas la regarder en entier. Tu peux pas la regarder en entier. Ça fait une heure et demie de toujours la même base.
C'est
en
des
fait.
Petits sketchs.
Ouais. Tu vois? Mais ça, c'est un méga vieilli. Cette façon de mal dire les mots.
Ouais. Je m'étais posé la question si ça avait mal vieilli ce genre de truc. Et j'avais revu du coup des extraits. Je pense pas avoir vu le spectacle en entier, mais j'avais revu le premier spectacle de Jamel, le premier qui était sorti en tout cas en cassette, en DVD. Et en vrai, je trouvais ça quand même assez frais, tu vois. Je me suis dit, j'ai plus rigolé en regardant un vieux truc que je connais assez bien que les derniers spectacles, par exemple.
Okay.
J'ai l'impression que il y avait quand même un truc assez lourd, même si, enfin, vachement bien, vachement. Et j'ai l'impression qu'il est plus dans le storytelling aujourd'hui, tu vois, où son spectacle c'est des vannes, mais c'est aussi je viens de là, etc., etc.
J'ai pas vu les derniers.
Ouais, moi j'avais regardé et tu vois que c'est très important de balancer sur les écrans géants derrière les images de lui petit, etc. Un peu son histoire, tu vois, il est plus dans le moins, il est moins dans la vanne de ce qui était.
C'est un peu plus dans l'émotion peut-être.
Ouais, je trouvais un petit peu.
Quand vous étiez jeune, quel était là ou le comique français qui vous faisait le plus rire, Aurélien?
Je sais pas. Parce que là,
on a quand même un peu tout le.
Ouais, il y a tout le monde.
Ah, il y a un peu tout le monde.
Choisir dans le film.
Il y en a un qui manque.
Parce
que quand tu me parles de ça, il y a un spectacle que je regardais grave et qui fait trop. C'est Elie Moon.
T'as mais tu sais quoi?
Ah, bah voilà.
C'était,
il est pas dedans.
Il est pas dedans.
J'avais ma réponse à lui donner.
Il n'y a pas Elie dedans.
Ouais, je pense qu'il aurait pu être dedans.
Mais Elie Moon, le spectacle où il invente tout, il fait le comique où il dit qui a mis les viandes dans ma vitelle avec
c'est drôle, ça.
Ouais. Franchement, c'est ce spectacle qui m'a tué.
Non,
surtout,
c'est
les petites annonces.
Il n'est pas dedans. Est-ce que c'est pourquoi?
Je sais pas. Elie Moon, c'était sa grande époque, tu vois.
Mais moi, je sais que, enfin, moi, pour répondre à cette question, je pense que l'humoriste qui me faisait plus rire quand j'étais au collège, c'était Elie Moon.
Ouais.
Les petites annonces, le spectacle.
Les petites annonces, avec du boss,
dingue, et tout,
c'était fou. Les blagues. En plus, quand tu regardais les bêtisiers, t'étais encore plus
Les farfadets de Limoges.
Franchement,
ça fait rire.
Ça m'a porté.
Mais même,
je faisais des blagues. Genre, je sortais de ma chambre et tout. Bonjour, ça trouve des farfadets de Limoges. Je faisais tout le temps.
Il y en a qui ont bien vieilli parce que là, récemment, j'ai vu les petites annonces sur YouTube et du boss qui est Elie Moon, il joue deux bourges du 16e qui se font raqueter à la sortie des cours. C'est tellement drôle.
Je suis obligé de mettre un peu de nuance là-dedans. comme il a sorti un film qui s'appelle Cyprien. Du coup, j'aime plus du tout Elie Moon. J'ai oublié toutes les blagues. J'adore de la merde.
Mais après, j'avais écouté ses derniers trucs et effectivement, c'est un peu moyen. C'est un peu recyclé, c'est un peu pas.
Et toi, Cyprien, l'humoriste qui te faisait vraiment rire quand tu étais jeune?
C'était les Robin des Bois.
Les Robin des Bois,
C'était les Robin des Bois. J'avais pas Canal et j'étais trop jeune pour l'époque des nuls. Du coup, j'ai, mais je, si j'étais un peu plus âgé, je pense que ça aurait été Les Nuls. Mais j'ai plutôt grandi avec Les Robins des Bois et ça m'a fait le lien en plus avec les Monty Python, avec tout ce truc absurde. Monty Python, c'est toute ma life, tu vois. Donc Les Robins des Bois, j'adore, franchement.
C'est vrai que Les Nuls, on parlait de Lee Seymour, mais si je devais placer quelqu'un à la même hauteur, enfin, dans mes souvenirs d'enfance, ce serait Les Nuls également. Alors, de toutes les BD françaises, Astérix est la plus connue, celle qui s'est le plus exportée dans le monde. Mais alors, comment est né ce personnage, Guillaume, Astérix?
C'est une très bonne question.
Écoute,
demain, tu me la poses parce que bon,
c'est génial parce que tu t'y connais, du coup.
Vous balancez les questions, mais vous lisez votre feuille en même temps.
Bien sûr.
Vous dites, oui, tout à fait, mais ils se regardent même pas dans les yeux.
Perso, je savais pas qu'il avait une feuille.
Mais j'ai pas de feuille, déjà.
Si t'as préparé le sujet,
j'ai
simplement pas de feuille, je vais dire ça de mémoire. Alors oui, pour comprendre d'où vient le Gaulois le plus connu du monde.
Et voilà,
c'est du papier.
C'est foutu.
Cyprien vient de lui voler la feuille.
Pour comprendre d'où vient le Gaulois le plus connu du monde, loin devant les cordons bleus, il faut s'intéresser à son dessinateur Albert Uderzo, né en 1927 dans la Marne et fils d'immigrés italiens qui viennent de s'installer à Paris en 1938. Albert Uderzo va découvrir la BD en lisant Mickey Mouse, publié dans le journal Le Petit Parisien. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire avant de commencer cette chronique que je parle sous le contrôle de Maître Nemo, spécialiste de la BD, et oui, je m'excuse d'avance pour tous ceux qui vont dire bah, « il n'y a pas tous les détails, parce que c'est juste une chronique, je ne peux pas refaire toute sa vie.
Ouais. »
C'est parti pour ça.
Il se défend.
Ouais, ouais, parce que j'attends les...
Oui, oh, le j'ai fait « Oh, j'ai fait ça. »
Vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Dès lors, il va se mettre
tout
à dessiner.
Tout va être très flou à partir de maintenant. Il n'y a plus Internet, lors, Wikipédia avec Shutdown.
Petit problème de 4G, là, j'étais en galère. Dès lors, il va se mettre à dessiner. C'est son frère Bruno Uderzo qui va le pousser à se présenter à la Société Parisienne d'édition qui publie à l'époque Bibi Fricotin. Je sais pas si vous voyez ce que c'est.
Non, ouais,
c'est bien
ça.
Vieux, ça.
Le truc de mes parents, ça.
Et voilà.
Même de
société qui va lui proposer son premier job en tant que coursier dans un premier temps. Il va apprendre là-bas les bases du métier et rencontrer son maître à penser, Calvo, un dessinateur connu à l'époque qui va lui dire de persister dans le dessin.
Et je pas dans le coursier, il a arrêté
non,
ça.
Non. Je connaissais pas du tout Calvo, mais bon. Il faudra attendre 1941 pour qu'il ait sa première publication, à savoir une parodie du Corbeau et du Renard de La Fontaine. En 1945, il tente une aventure dans le dessin animé intitulé Carbure et Clic-Clac.
C'est bon, okay. Ça,
mais il est déçu par le rendu et décide finalement de ne pas réitérer l'expérience. Mais bon, après, il va la réitérer comme on le sait. L'année d'après, il remporte un concours avec les éditions du Chêne et ça va lui permettre de sortir son premier album mettant en scène le personnage de Clopinard, où on retrouve ses influences plutôt américaines dans
c'est
le trait.
C'était l'ancienne, j'adore.
Ouais, Clopinard.
Et celui d'avant, là, le dessin animé.
C'était Carbure et Clic-Clac.
C'est vraiment des noms à l'ancienne.
Mais j'ai regardé Clopinard, du coup, les dessins, et c'est vrai qu'on reconnaît bien les traits américains, ambiance. Il a vraiment les mêmes mains que Mickey dans des gants blancs. Et ouais, alors dès lors, il n'arrête pas de travailler, BD pour le magazine OK et dessin d'actualité pour différents journaux comme France Dimanche ou France Soir. Sa carrière est lancée, il réalise même en Belgique une adaptation de Capitaine Marvel.
Ah ouais.
Ouais.
What?
Il paraît dans le journal Bravo. Mais les revenus sont très maigres pour le moment. Il gagne vraiment pas de thunes, le pauvre Uderzo. Et en 1950, il est embauché par Yvan Chérion chez International Press. Et dans le même temps, il rencontre Georges Troisfontaine, qui lui détient World Press, une agence de distribution de bandes dessinées. Georges Troisfontaine. non, bah, c'est un grand.
Tu fais une mauvaise impro, quoi.
C'est un grand éditeur de BD, Georges Troisfontaine, parce qu'il détient, donc c'est une agence de distribution de BD. Et il a notamment le journal de Spirou.
Ah
donc
ouais,
à l'époque, c'est quand même un gros truc.
Aspect.
Et les trois, ils deviennent amis, ils ont des bureaux en commun sur les Champs-Élysées, où Uderzo vient dessiner. Quand un jour, Georges Troisfontaine lui présente son ami, scénariste René Goscinny.
Aïe, aïe, aïe.
Et c'est là où je m'excuse auprès des gens, parce que je pouvais pas faire la vie des deux. Donc je vais résumer sa vie. René Goscinny qui a passé son enfance à Buenos Aires pour finalement partir tenter sa chance en Amérique et qui revient en France.
Donc c'est là où c'est la 4G était un peu limite.
Alors qu'en fait, non, mais alors qu'en fait, quand tu regardes, il a quand même rencontré le boss de Mad Magazine, etc.
Ah,
et
me spoil ouais. Pas, me spoil pas.
Putain.
On va en parler après. Ah, on va en parler après. Très bien. Ah, bah, c'est pour ça que j'en ai fait moins sur René Goscinny parce que
c'est
je
bien.
Savais. Tout est prévu. Et là, c'est le coup de foudre immédiat entre les deux. Ils ont les mêmes références. Walt Disney, Laurel et Hardy et la bande dessinée. Leur premier travail ensemble est pour une rubrique Savoir Vivre dans le journal féminin Bonne Soirée chez Dupuis. Puis un personnage de corsaire nommé Géant le Prodigieux. Pour la...
Les noms sont parfaits.
Géant le Prodigieux.
Pour le quotidien La Libre Belgique. Il décide ensuite de créer un personnage d'Indien nommé Oumpapa.
Ah, ça, c'est connu, ça.
Oumpapa, c'est connu. Mais sauf qu'à l'époque, ils sont très enthousiasmés par ce projet. Mais malheureusement, ils n'intéressent personne, ni Dupuis, ni la Belgique, ni l'Amérique. Ils ont tenté partout, mais personne n'en voulait. Ils continuent à travailler pour des magazines, mais ils n'arrivent jamais à travailler pour Dupuis ou publier des albums, alors qu'à l'époque, Maurice et Franquin sont déjà dans le game, comme on dit. Et ils publient des trucs, donc ils sont un peu jaloux, les deux. Et Uderzo gagne toujours très peu d'argent, parce qu'il vit chez ses parents à rue de Montreuil.
Ah ouais,
à l'époque.
Quel loser.
Ouais, bah, franchement, ouais, gros loser, franchement.
Il a su rebondir.
On peut respecter, ouais. Respecter l'œuvre du.
Non, mais tu dis, il vit chez ses parents, c'est vraiment con.
Et alors, en 1956, ils décident de créer leur propre agence de production de BD, accompagnée du scénariste Jean-Michel Charrier, Eddie Presse et Eddie France. Dans le même temps, ils commencent à travailler pour le magazine Tintin. Parce que Goscinny, il commençait à rentrer dans le magazine et il a dit, ce serait bien d'engager Uderzo parce qu'il est hyper fort. Et ils y publient, entre autres.
Chez ses parents, il faudrait peut-être se sortir de là, quoi.
Ils y publient, entre autres, Oum Papa. Enfin!
Ah, enfin.
Et leur tandem commence à être reconnu. C'est en 1959 que leur vie va commencer à changer. Le publicitaire François Clutot décide de lancer Pilote, financé par Radio Luxembourg et censé être un pari match pour les jeunes. Il charge l'entreprise donc Eddie Presse de l'édito du journal et Goscinny et Uderzo proposent alors l'adaptation du roman de Renard. Et finalement, tout part de là parce qu'on va leur apprendre que le dessinateur Jean Tuber vient de la faire. La même adaptation pour le magazine Vaillant. Du coup, ils sont en galère, ils n'ont plus d'idées.
C'est Fourmis et Mille une pattes, en fait. Les deux films arrivent en même temps, ça fait chier, quoi.
Et du coup, ils doivent chercher une autre idée, et on est à 2 mois de la sortie du journal, ils sont réunis chez Uderzo à Bobigny.
Mais oui, je le savais, ça.
Et voilà. Parce que au cimetière de Pantin. Si tu veux, sur GPS. Ils cherchent une histoire rendant hommage au folklore français et se mettent à énumérer les époques. Ils commencent par le paléolithique pour finalement arriver sur les Gaulois. Et d'un coup, l'inspiration prend. Ils imaginent un village et une personne vif et espiègle.
Le vif.
Et donc, je regardais une interview de E2 et Goscinny dira en interview, nous étions dans la position d'Américains qui découvrent le Far West, mais notre Far West à nous, c'est-à-dire les Gaulois. Ils veulent un héros à l'antithèse de ce qui se faisait à l'époque, petit, difforme, mais touchant par sa drôlerie, et aussi un héros moins beau que nous, parce que les héros trop beaux, on a tendance à leur en vouloir. Moi, par exemple, j'en veux à peu près à tout le monde, a dit Goscinny. Et alors, il publie la première histoire d'Astérix, le Gaulois, le 29 octobre 1959, dans Pilote. Et tenez-vous bien, on parle d'un magazine. Les plus jeunes d'entre nous n'achètent plus de magazine depuis très longtemps. Mais en 1959, ce magazine s'est vendu à 300 000 exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre.
C'est-à-dire
que les magazines qui marchent maintenant, on les sort à 40 000 exemplaires. Donc, ils en vendent peut-être 20 000, 22 000. Là, on en a vendu 300 000 de celui-là. Et du coup, fort du succès, ils vont continuer ça. L'histoire d'amour entre les Français et Astérix pouvait débuter 2 ans après. Le premier album d'Astérix est publié chez Hachette et il est coulé seulement à 6 000 exemplaires en album BD.
Je sais qu'il y a un business de vieilles BD Astérix.
Les 6 000,
ça coûte hyper cher.
Non, mais les 6 000, c'est sûr, ça doit être culte. Parce que, écoute les chiffres d'après, ils étaient loin alors d'imaginer que des années plus tard, 380 millions d'albums d'Astérix s'écouleraient dans le monde. On estime que Tintin, c'est 240 millions. Ça fait quand même...
Ouais.
Ça fait beaucoup plus. Ça fait 100 millions de plus, 140 millions de plus. Et les albums ont été traduits dans 111 langues. En janvier 2017, une planche chez Uderzo se vendait aux enchères 319 000 euros. Ouais. Et qu'un parc à thème serait créé, évidemment, autour de leur univers, accueillant chaque année plus d'un million de personnes, ou que l'adaptation cinématographique qui nous intéresse aujourd'hui réunirait 14,5 millions de personnes.
C'est ouf, hein?
C'est fou, quand même. Mais en fait, ce qui est fou, c'est toujours dans les histoires de succès, c'est de se dire, il y a toujours un moment où c'est la galère, ils sont là, oh là là, on n'a pas d'idée, on galère, et
ça a duré longtemps, en fait.
Ouais.
C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que le mec, il s'est dit, bah non, mais c'est pas grave.
C'est un beau message pour ceux qui habitent chez leur mère et qui nous écoutent actuellement.
Exactement. Et pendant un temps, il a dit, je pourrais même dessiner le bottin, je m'en fous, je veux juste dessiner. Ouais. Et après, Astérix arrive. Bon, après, évidemment, Goscinny, il a pas vu tout ça, parce qu'il est mort en 77.
Ouais.
Mais Uderzo, il a quand même vécu jusqu'à 92 ans, il nous a quitté l'année dernière.
Ouais.
Il a eu le temps de voir l'Empire se bâtir.
Il était plus chez ses parents.
Non, parce qu'à la fin, il collectionnait les Ferrari.
Et chez les parents, il y avait place.
Ah, c'est clair.
Et d'ailleurs, je crois que Uderzo a formé des jeunes dessinateurs et des jeunes auteurs pour que Astérix puisse encore exister malgré la disparition.
Enfin, ils ont été formés par Uderzo.
Ah,
ouais.
Faut respecter la charte.
En mode Disney.
Comme Disney, ouais.
Mais son style graphique, enfin, les BD, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment génial, Astérix. Déjà, le fait de puiser dans l'histoire pour faire des blagues et des personnages, tu vois. Ça fait des trucs quand même très, en fait, c'est ce que les gens adorent là-dedans aussi. Mmh. Et c'est pour ça aussi que les parents aiment bien faire lire Astérix aux plus jeunes. C'est que genre, t'apprends aussi l'histoire de la France et de toutes ces civilisations, t'avais les Germaniques,
ça n'a pas vraiment existé Panoramix, hein, par contre.
Ah bon?
Mais la potion
les druides, j'en connais. Hein.
Bon, c'est faux. Alors, Cyprien, en 2015, tu t'es lancé, t'as sorti ta première BD avec le dessinateur Paca, BD qui s'intitule ouais. Roger et ses humains, et qui vient de voir son tome 3 sorti récemment. Est-ce que tu consommais beaucoup de BD quand t'étais petit? Et si oui, est-ce qu'il y a eu des influences?
Alors déjà, moi, j'étais chez Dupuis, ce qu'a pas réussi à faire Uderzo.
Après, est-ce que t'as autant de Ferrari?
Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je, oui, bien sûr, je lisais, la BD, c'est vraiment toute ma vie, quoi. Et j'adorais, je pense que les BD françaises que je lisais, c'était Astérix. Je réfléchis, quand j'étais gamin, mais je lisais
plutôt
pas.
Astérix que Tintin.
Oui, tout à fait. Ouais.
Parce qu'en plus, parfois, on a tendance à penser que Lucky Luke, Tintin, tout ça, c'est français, alors que pas du tout, c'est belge.
C'est cool, complètement belge. La France, on n'a pas inventé grand-chose.
Il y a Willy Bill, non? Willy Bill, c'est français, non?
Titeuf, c'est français.
Ouais. Non, c'est Suisse.
C'est Suisse. Bah, tu vois. Suisse. Les Schtroumpfs, c'est belge. Ah. Tu vois, les Belges, quand même, ils ont Tintin, les Schtroumpfs et Lucky Luke. C'est quand même culte.
Bug Dany, je crois.
C'est français, non?
Quoi, on dit franco-belge, mais en fait, c'est surtout les Belges.
Ouais, c'est vraiment les Français. C'est comme Blueberry. Blueberry, c'est français.
Moebius, oui.
Voilà. Et cordial.
Jean Giraud est français.
Ouais. C'est comme on s'est greffé à la Belgique. C'est franco-belge, mais
on a toujours voulu des trucs au belge parce que finalement, Lucky Luke, les Schtroumpfs, Jacques Brel, Hallyday. Ouais, c'est français, ça. Alors,
Angèle, j'adore les Français. Ouais, qui cartonnent. Non. À chaque fois que tu as des gens qui disent ça, ouais, les Français, ils cartonnent. C'est enfin, aux States, ailleurs. Non, ils sont belges, tu vois. Je lisais ça. Je lisais beaucoup, effectivement, franco-belge, c'était que Astérix. Tintin, je sais pas, c'était trop un truc de daron pour moi. Et puis il y avait trop de textes, les bulles elles étaient carrées, enfin il y avait rien qui
pas Black et Mortimer quoi.
Hein?
Black et Mortimer.
Oula.
Oh là là.
Non, surtout pas.
Mais je pense que c'est plus des BD d'adultes peut-être Black et Mortimer, non?
Ouais, quand j'étais gamin
c'est
le
truc d'aventure quoi.
Ouais, c'était
Ouais, mais quand t'es enfant, je peux comprendre que tu sois en mode
t'as envie de dire Gaston Lagaffe quoi.
Les cases elles sont hyper généreuses en plus, tu sais, c'est pas genre enfin, il y a des blagues dans les cases, tu vois, c'était des petites fresques et tout quoi. J'aimais bien ça et après je suis tombé dans le manga, donc tout le reste de la bande dessinée moi c'était que japonais. Voilà, c'est un petit peu
c'est quoi le premier manga qui t'a fait tourner, switcher?
Bah Dragon Ball, hein.
Ouais.
Vraiment. Ah ouais, j'achetais les éditions hebdo là, c'était des toutes petites ouais, il y avait très peu de pages quoi. C'était juste quelques chapitres quoi et j'achetais ça toutes les semaines. J'avais 18 francs d'argent de poche, je les prenais, je les donnais au libraire ou je sais pas où, j'achetais ce truc là. Voilà.
Alors, une des choses qui me fascinait le plus dans Astérix comme beaucoup, c'était la potion magique. Et figurez-vous que j'ai voulu en savoir plus sur sa composition. Du coup, je suis en mesure de vous donner sa recette officielle.
C'est pour ça qu'il dit que ça n'existe pas.
Écoute. Alors, figure-toi qu'il faut du gui cueilli obligatoirement avec une serpe d'or. Donc, si vous n'avez pas ça, c'est mort déjà.
Okay.
Avec une serpe d'or.
Faisable.
Ensuite, il faut ajouter des carottes, du sel, un trèfle à quatre feuilles, un peu de poisson frais, c'est important, de l'huile de roche, du jus de betterave, du miel et de l'hydromel. De l'hydromel, c'est un mélange d'eau et de miel. À côté de ça, vous pouvez ajouter, mais c'est facultatif, juste pour le goût, du homard ou des fraises. Et pour ceux qui se demandent quel goût ça a, apparemment, ça ressemble à un potage de légumes. Voilà, vous savez tout
ça. Ça a l'air dégueulasse.
Bah ouais, ça a l'air dégueulasse. Tout ça pour vous dire que...
C'est quoi, de l'huile de roche?
L'huile de roche.
C'est quoi l'huile de roche?
Je sais pas du tout.
C'est une arnaque, ça. C'est une arnaque de Panoramix.
Mais vous bossez pas l'émission. La liste, là, quand il n'y a plus la 4G, c'est terminé. Putain, c'est fou.
C'est quoi l'huile de roche?
L'huile de roche, comment tu connais la recette, je veux dire? Tu l'as trouvée où?
Mais écoute, j'ai mes petits filons.
C'est pas dans, non, mais il est pas dans un album.
Ah oui. Wikipédia, potion magique, tout simplement.
Je n'aime pas Astérix, j'ai demandé à un gars.
Tout ça pour vous dire que je vais vous poser une petite série de questions.
Ah.
La potion magique, on la prend quand on a besoin de se donner de la force et du courage. Mmh. Alors, je suis allé chercher via des sondages les peurs les plus répandues des Français. Et je vais vous demander si ces peurs, vous les gérez tranquilles ou si ça prend de la potion magique.
Allez.
J'en ai ajouté quelques-unes qui n'étaient pas dans le sondage et que je trouve qu'ils font peur quand même.
Okay. Ouais.
On va justement commencer par une peur qui n'est pas référencée par les Français, mais qui est pourtant bien réelle.
C'est tellement alambiqué ton truc, mec.
À savoir, ouais, mais écoute.
Il a casé potion magique, mais genre comme ça.
Non, mais tu verras, ça se rejoint.
Okay.
À savoir, vous êtes au ciné avec votre meuf. Et là, derrière vous, un groupe de 5-6 mètres...
Un groupe de 5-6 mecs
fout grave le bordel. Ce qui fait que votre meuf vous dit au bout d'un moment, « Bon, bah, elle dit quelque chose. » Au moment de dire quelque chose, vous le faites tranquille ou vous auriez besoin d'un petit peu de potion magique? Guillaume, t'es quel genre de gars, toi?
Non, je fais tranquille.
Ouais, t'es tranquille, toi?
Tranquille. Non, je t'appelle.
Ah ouais?
J'y vais.
Non, mais t'es du genre à dire un truc ou tu temporises?
Non, mais je dis rien, gros.
Ouais, tu dis rien.
Ou alors on se barre, on ira à une autre séance, tu vois.
Alors, j'ai placé en premier cette question parce que je sais que Cyprien a une très bonne anecdote.
Alors, aujourd'hui, du coup, j'ai été traumatisé par un moment dans ma vie. Donc, je ne pourrais pas je ne pourrais pas dire quelque chose. Moi, j'ai vécu, une séance très, très improbable en regardant Django Unchained. Il y avait un couple qui parlait à côté, mais qui parlait genre, qui parle comme je parle maintenant, tu vois.
Oh là là.
Et le film fait, oh, je suis sûr qu'il va se passer ça. Oh, lui, il va mourir. Regarde, regarde, chérie, lui, il va mourir, c'est sûr, tu vois. De ce niveau de parole,
mais
tu vois.
Qui fait ça, en fait?
Bah, les gars,
il y en a beaucoup.
La première heure, c'est cool. Et
déjà une heure, c'est chaud.
Ouais. Une heure, c'est chaud. Ok. Je m'apprête. Là, c'est bon. Pendant une heure, je regardais le film et en même temps, j'ai fait mon cheminement. Je fais, bah maintenant, trop, c'est trop. C'est simple. Le gars était à ma droite, tu vois. Ok. Le gars était juste à ma droite. Et là, je me dis, ok, je vais lui dire un truc. Au prochain. Oh, mais non, mais attention, il va se passer ça, tu vois. Ok. J'attends juste quelques secondes. Là, le gars, il fait. Ah, mais non, mais là, c'est abusé ce qui se passe. Je m'apprête à dire quelque chose. Mais le mec en face, un tout petit peu plus rapide que moi, il se retourne, il fait non, mais maintenant, ça suffit maintenant. Le mec à ma droite, donc je fais putain, il est plus rapide que moi, tu vois. Le mec à ma droite se lève et il met des patates vénères au gars en face. Oh, bam, bam. Tu sais, les sièges derrière sont un peu plus hauts, tu vois. Le gars en face, il pouvait rien faire. Il a pas dit bonjour. Bam, bam, bam. Le gars, il lui a dit. En mettant des patates, il lui disait ouais, je suis pas ton esclave. Donc je pense qu'il a été matrixé un peu par le film. Et sa copine, donc une fois que le gars était sonné, tu vois, la copine du mec qui tabassait, lui a dit oh non, pas encore. Donc je pense que c'est un truc qui est arrivé plusieurs fois. Et donc sa copine l'a pris par l'épaule, elle fait vas-y, on se barre et tout, tu vois. Donc j'avais un gars qui était sonné en face de moi. Et j'étais très content de pas avoir été assez rapide d'avoir dit, parce que sinon c'est moi qui j'allais dire exactement la même chose que le gars, genre non mais maintenant ça suffit, tu vois.
C'est quand même fou.
Et il y a eu ne serait-ce qu'un petit moment où enchaîné. Ils ont parlé. C'est vraiment pas
direct. Je te jure que c'est arrivé hyper rapidement. Et j'ai dû dire quoi t'as un problème, et il lui a dû peut-être voilà ça mais sinon direct.
Et t'es pas intervenu pour défendre le.
À ce moment-là, j'étais là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le film, tu vois, non, à ce moment-là, mec, c'était un film dans le film, tu vois.
Il s'est fait virer de la salle ou pas?
Bah, en fait, sa meuf l'a sorti, en gros, tu vois. Genre, okay. Non, on se barre, pas encore, tu vois. Et donc voilà. Après, c'était dur de se concentrer au niveau du film. Le gars d'en face, je crois qu'il est sorti et vraiment, il avait besoin
ça
de
soins.
Ça veut
quand même dire qu'il y a un mec qui est rentré chez lui en se disant, ok, je me suis fait tabasser parce que j'ai dit un mec de se taire. Et il y a un autre mec qui est rentré chez lui en se disant, il y a un mec qui m'a demandé de me taire, je l'ai défoncé. T'imagines? Il y a un mec qui m'a demandé de me taire. C'est quand même pas un truc de ouf. C'est pas un manque de respect incroyable? C'est fou la nervosité.
Ouais.
Donc maintenant, ça veut dire que depuis cette histoire, tu serais pas du genre à demander aux gens de se taire au ciné.
Soit de tous les gars qui parlent, je suis tombé sur le gars psycho et du coup, c'est bon, j'ai vécu, tu vois, le truc. C'est genre, je me suis pris la foudre. Je peux aller en slip quand il pleut, tu vois. Ou alors, je sais pas, en fait. Soit je me dis, non, mais c'est bon, j'ai eu le gars chelou et maintenant je peux ouvrir ma gueule, je peux pas retomber sur ce gars-là. Ou alors, j'étais trop traumatisé, ce qui est fort possible. Et là, je me dis, non, je vais y aller. Non,
et après, parfois, t'es le seul dans la salle à pas faire de bruit aussi. Donc ça, c'est compliqué. Quand on avait vu ça, tu sais,
les films d'horreur dans certains cinémas.
Tout le monde parlait, ouais. S'achetait des pop-corn.
Mais après, nous, on a quand même connu les avant-premières influenceurs, c'est les pires.
Ouais.
Pourquoi? Personne vient pour
parce film. Que il y a du bruit partout, et les gens ils foutent le bordel, ils mettent le popcorn par terre, ils nettoient pas.
C'était celle de ça.
Non mais franchement, c'est vrai,
c'était une avant-première influenceur.
Ouais.
Alors maintenant, vous allez avoir la liste de tous les influenceurs qui parlent. Dites, comment c'est?
Toi, non, Aurélien, est-ce que t'es du genre à dire des trucs?
Ça m'est arrivé, mais tranquille. Souvent, je change de place, en fait.
Ah ouais?
Mais je le fais remarquer. Je vois, vas-y, tu saoules, et je change de place. Mais après, trop. Je sais que les embrouilles vont très vite. Et je me dis, en fait.
Non, mais non. C'est pas normal que ça aille vite, quand même.
Non, mais ça arrive très souvent, en fait. Et je me dis, tout le monde va perdre du temps. Et personne va voir la fin de ce film, en fait.
C'est
donc il y a peut-être une autre solution qui peut arriver, qui peut faire que tout le monde s'arrange. Parce que moi, je trouve quand même de plus en plus les gens parlent de façon très naturelle, comme si c'était dans leur salon.
De plus en plus,
au cinéma. Ah ouais, moi je trouve quasiment une séance sur deux, tu te retrouves avec quelqu'un qui est pas très loin et qui est comme s'il était dans son salon à lui, comme s'il était tout seul.
C'est fou,
et il est en train de parler avec ses amis. Des fois, il se retourne pour aller parler à un mec qui est derrière et tout.
Est-ce que c'est pas lié au fait, justement, qu'aujourd'hui, on regarde de plus en plus de films à la maison avec les plateformes, etc. On en regardait moins à l'époque. Peut-être que les gens, ils sont dans une habitude où ils disent, bah voilà, à la maison, je parle avec ma meuf pendant le film, etc. Je sais pas, j'essaie d'expliquer ce truc.
Alors, moi, je suis pas sûr. Enfin, en même temps, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans une salle de cinéma. C'est mais vrai. Moi, je suis pas sûr que ce soit de plus en plus, ça parle de plus en plus. Bah, moi, je sais que ça parle dans les films d'horreur parce qu'il y a il y a pas mal de gars un petit peu qui veulent faire les virils et tout. Et quand là, pour dédramatiser le truc, ils parlent, ils balancent des vannes et tout. Et parce que s'ils disent rien, ils vont faire, je suis pas une chialeuse, tu vois. Mais sinon, moi, sur plein d'autres séances qui ne sont pas des trucs d'horreur, c'est plutôt quiet, quoi.
Ouais. Enfin, ça dépend de la salle aussi.
Ah bah oui, totalement.
Oui, ça dépend de la séance et tout. De toute façon, aux États-Unis, par exemple, le cinéma est beaucoup plus participatif, j'ai envie de dire.
Ouais.
Tu vas à une séance, tout le monde parle, c'est le bordel, ça crie quand il se passe des trucs. Ouais. les gens ils applaudissent tout le temps, il se passe plus de choses en fait.
Je sais pas si un jour je pourrais accepter ce truc là, tu vois.
Ouais. C'est chiant. Moi j'avoue, ça m'emmerde.
C'est bon, après moi je suis déjà allé dans des ciné en Amérique du Nord, il y a un côté où je sais pas, c'est tu te dis ouais, c'est comme ça ici, c'est naturel, et je sais pas, ça passe plus qu'en France bizarrement.
Ouais,
c'est assez chelou.
En France, les remarques et tout ça, c'est jamais marrant aussi, tu vois. C'est genre oh oh, c'est les mecs qui font ça et tout. C'est marrant, c'est nul.
C'est
un peu
lourd, ouais.
C'est lourd.
Alors que oh oh, tu as la même chose. Vous avez senti.
Il y avait une bonne ambiance là, il y avait une meilleure ambiance.
Oh my god.
Alors, toujours avec votre moitié, vous êtes à la campagne, dans une vieille maison pas ouverte depuis 1000 ans, et en pleine nuit, elle vous réveille pour vous montrer une méga araignée au mur.
Aïe.
Mais
wow.
Genre très très grosse, un peu moins qu'une migale au niveau de la taille. L'ordre donné est, vas-y, tue la. Au milieu des cris, vous le faites tranquille ou ça prend un peu de potion magique,
voilà,
ça, Guillaume?
Tranquille.
Ouais, tu le fais tranquille, toi, ça.
Ouais,
ok.
Ouais.
Méga araignée, attention.
Oui, non, mais c'est bon.
Ok, tu t'en fous. Très bien. Je te respecte un peu, je te cache pas. Cyprien.
Moi, je viens un peu de la campagne, donc easy.
Ah ouais,
ah ouais,
putain,
easy. J'ai
on
déjà
est entouré
fait des...
de boss autour de cette table.
Non, non, ouais, j'ai déjà touché des trucs un peu. Ouais,
comme quoi?
Non, mais tous les. Ouais. J'ai enterré mon chat, les gars, ok? Donc, avec une pelle et tout. Donc, tout ce qui est animaux et tout ça, c'est bon.
J'arrête ce jeu tout de suite.
Tu peux aller jouer au Fort Boyard, là, quand faut mettre la main, la tête et tout ça, non?
J'ai fait Fort Boyard deux fois.
Ok.
J'ai fait la tête chercheuse, c'est-à-dire que ma tête est rentrée dans des trucs de lombric et tout ça, tout ça.
Le souffler et tout, là.
Exactement.
Tu t'en foutais ou?
Eh bah, j'étais un peu I don't care, j'avoue.
Ouais.
Et, il y a juste la tête dans les, en fait, c'était, Malik Bentala qui devait le faire. Et lui, il a dit, non, je ne le ferai pas. En off, ça a été coupé à l'émission, bien évidemment. Et moi, je le dis, il faut que je le répète quand même. Voilà, ouais. C'était pas moi qui était normalement dans ce truc-là. Et
donc, on peut dire non à Fort Boyard, alors.
Bah, normalement, pas trop. En fait, tu dois remplir une petite fiche et tu dois mettre un peu les trucs un peu. Je veux pas faire ça du tout. Quoi.
Okay.
Et donc, les gars de Fort Boyard, ensuite, ils regardent et ils font tout ce que tu as mis, je veux pas faire.
Oh,
c'est
relou.
Aussi simple que ça. Okay, c'est simple.
Ouais,
tout le monde le sait.
Voilà, pour les réactions.
Moi, j'ai mis. Dans la première fois que je l'ai fait, j'ai un peu le vertige, tu vois. Ça a pas loupé, mon pote. Hein,
ouais,
tu
mais
vois.
Du coup, ils se retrouvent avec un problème.
Exactement.
Ouais, mais du coup, sur place, ils sont en mode, bon, bah, personne ne veut le faire. Non, ils sont pas en galère.
Eh ben, non, parce que eux, ils veulent des images. Clairement, la prod de Fort Boyard, ils s'en battent les couilles de ton confort. C'est vraiment le dernier, tu vois. Ils veulent juste des images, quoi. Et donc, du coup, Malik Bentala avait mis, oui, j'aime pas trop, juste les souris ou je sais plus quoi, ou un truc. Et ben, ils l'ont charbonné sur tous les trucs avec des insectes et tout.
Ah,
donc là, il avait mis un no-way total. En fait, moi, j'étais en train de m'habiller, je mettais une combi pour faire le truc sous l'eau. Tu sais, il y a un truc sous l'eau où tu dois vraiment passer, tu dois respirer entre deux petites barres.
Ça, je peux pas, ça.
Ouais, ça
c'était
pas
dur.
C'est dur.
C'était dur. Et je me suis dit, oh là, c'est chaud, tu vois.
Tiens, d'ailleurs, pour ce genre de truc, ils vous briefent quand même en mode, il y aura des sauveteurs
juste
à côté.
Ah oui, okay, bien sûr. Non, le truc est, ils s'en foutent de que toi t'aies peur, etc. Mais en termes de sécu, il y a aucun problème. Okay, hein, tu peux y aller 10 fois, il y a pas de souci. Tu peux un peu te faire mal ou truc, mais il y a aucun souci.
Tu peux pas te noyer, quoi.
Non,
très triste.
Tu peux pas, c'est impossible de se noyer.
Après, énorme buzz au niveau des audiences.
Donc, je commençais à m'habiller et tout, et j'étais en train de me projeter, parce que vraiment, ça me faisait flipper, moi, d'aller sous l'eau, et de, tu vois, et le stress fait que tu respires de moins en moins. Enfin, je pense que c'était un des trucs les plus durs, je trouvais, à faire.
Ouais, puis en plus, t'es filmé, il y a un truc de performance, tout ça.
Ah, je m'en battais les couilles, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, faut vraiment que j'aille sous l'eau, c'est dur. Et là, on m'a tapé à l'épaule et on fait, ouais, remets tes sapes et tout, on va changer. Malik Bentala, il veut pas faire le truc de ce que tu vas faire là, donc il va faire ton truc sous l'eau et tout. Je suis ok. Donc, c'est là, on a swap et du coup, on m'a expliqué c'était quoi la tête chercheuse. On m'a mis la tête dans un truc qui avance tout seul. Et voilà. Et ma tête rentrait dans des boîtes. Et effectivement, j'ai eu des lombrics sur la gueule et des trucs comme ça. Mais des grenouilles aussi, plein de petites grenouilles qui te sautent un peu sur la gueule. Et c'est vraiment quand je suis rentré dans la boîte avec les mouches. Mouches. L'odeur était intenable.
Ah ouais.
On s'en rend pas compte, mais
ça sent la merde.
Ouais, ça sent la merde de ouf, tu vois.
Ouais.
Ah ouais. Je
dans la bouche.
J'avançais avec les grenouilles. J'avais juste peur que les grenouilles se mettent dans un pli et que tu vois, il y en a une qui crève pendant que je passe. Les lombrics sur la gueule, je fais ouais, ça c'est pas correct. Et j'arrive vraiment dans les mouches, je fais ouais, Osef, les mouches quoi. Et là, l'odeur, c'était vraiment très très dur.
Bah, tu nous apprends une bien bonne.
Voilà.
La mouche
pue. T'as gagné l'épreuve ou pas?
Je pense que oui, j'ai dû souffler, mais c'est un truc, c'est toujours un peu collaboratif, tu vois, donc je soufflais pour dire des chiffres et les autres faisaient du calcul mental derrière, tu vois. Mais oui, du coup, j'ai fait, et ça, c'était plutôt chill. Par contre, il y avait un truc où ils ont rajouté, quand je l'ai fait la deuxième fois, un truc avec Willy Rovelli. Ah il faut manger tout dégueulasse.
Ouais. Le cocktail, je sais pas quoi.
Autant la migale, je peux la défoncer easy, la prendre et la jeter. Autant si on me dit, ouais, et croque dedans, là, je ferais, dès que c'est dans la bouche, là, j'ose moins.
Aurélien, toi, tu t'en fous ou?
Je viens de la campagne aussi.
Ah
donc,
oui,
les insectes, ça me dérange pas de ouf. Genre, ça fait chier quand je les vois bouger, je suis là, mais tu sais, genre, franchement, non. Les insectes, j'avais des espèces de rampants chelous, tu sais, espèces de mille pattes, là, de poussière, là.
Ah ouais.
J'en avais plein dans ma cave, je vivais dans cette cave, je faisais de la musique dedans et tout, et en vrai, ça me dérangeait pas.
J'ai pas usé la potion magique juste pour ça, tu vois.
Bah, ouais, c'est quand même. Non, même pas, par contre.
J'y vais, toi, donc oui.
Non, mais moi, j'ai pas,
Il est obligé de dire non.
Non, mais moi, j'ai, oui, enfin, les araignées, j'en suis pas fou, tu vois, mais en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est, je déteste tuer. Être vivant. C'est que quand on me dit, vas-y, tue l'araignée, s'il te plaît, et tout, en fait, ça met en galère parce que j'ai pas envie de cesser la vie d'un être vivant.
Oui, ça, je suis d'accord, par contre.
Et du coup, j'essaie toujours de trouver un moyen de la sortir, mais après, j'ai pas envie qu'elle vienne sur mes mains et tout, c'est une galère, quoi.
Ouais, j'aime pas, je suis d'accord, j'aime pas tuer, mais c'est pas moi qui choisis, c'est ma meuf, en fait. Elle me dit, tue-le!
Oui, c'est ça, c'est toujours ça, en général.
Si elle me dit, prends-le avec un mouchoir et mets-le ailleurs, je le fais aussi, tu vois. C'est elle qui décide. Si elle me dit, tue, je tue, tu vois.
Après, le seul être vivant pour lequel je m'en bats les couilles, c'est le moustique. Je suis en mode boisie. Il me casse les couilles toute la nuit.
C'est même mieux. Moi, quand tu sais, avec la raquette électronique, quand il y a le...
il prend du plaisir.
Donc, ouais, tu le tues. Et après, très souvent, je le regarde s'il est coincé dans la raquette et je rappuie un coup pour qu'il... Juste voir sa dépouille cramée. Je suis d'accord avec toi.
Et les moustiques.
Voilà, les moustiques.
Il est déteste.
Je déteste ça.
Alors, tiens, j'en ai un pas mal. Vous avez prêté... Alors, celui-là, il est un peu technique. Vous avez prêté une certaine somme d'argent à un ami, mais cela fait des mois que c'est le silence radio. La limite de temps a été abusivement dépassée. Lui demander de vous rendre votre argent, vous le faites cash sans pression ou ça prend un peu de potion? Par là, j'entends que on vit quand même dans un monde où on a toujours peur de demander à quelqu'un de nous rendre notre argent alors qu'on lui a prêté, quoi. Guillaume, tu le fais cash ou ça prend un peu de courage d'aller demander ça?
Non, ça prend pas de courage, mais bon, à un moment, faut rendre l'argent, quoi.
Ouais, mais c'est toujours délicat.
Bah, ça se fait pas.
Bah oui, ça se fait pas, oui. On est d'accord.
Je sais pas, ça m'est jamais arrivé cette situation, je crois.
Jamais.
Non, je crois pas, non? Si vous n'avez pas d'argent, moi, je m'en bats, j'ai pas assez.
je suis pas très fan des relations conflictuelles. Donc, j'avoue, ouais, je me ferai le scénario 3-4 fois avant de dire.
Ouais, tu vois,
mais
c'est
sinon,
quand même.
Sinon, il y a quand même, quand même les. Tu sais, tu me.
Ouais,
tu
mais je trouve ça dingue d'avoir peur de demander, tu vois. C'est pour ça que moi, quand les rares fois où. Non, je crois qu'on m'a jamais prêté de l'argent, mais je pense que si
non,
on
m'a prêté 2 euros
la dernière fois. Ouais, c'est vrai.
C'est vraiment le conflit qui arrive derrière, où si le gars il fait, ah, ben bien sûr, ils sont là depuis le début, etc. Ah, désolé, cool. Je sais pas quoi, y a pas de souci, mais si c'est vraiment en mode, ouais, mais mec, si je t'ai demandé, c'est qu'il y avait une raison, et blablabla, et blablabla.
Ouais, tu passes pour l'abuseur.
Ouais.
Alors, Guillaume a une très bonne anecdote avec le McDo. J'adore cette anecdote.
Ah oui, l'anecdote du McDo.
Mais non, mais
c'est quoi le lien?
Vous allez comprendre le lien.
Une fois, j'étais dans un groupe de punk hardcore, figurez-vous, et le bassiste me dit, ouais, putain, en ce moment, c'est dur, j'ai vraiment pas de blé et tout. On va au McDo. Je dis, bah, dis, tu veux pas m'envoyer un McDo et tout? Je dis, ouais, bah, carrément, tu vois. Si tu veux, ouais, pas de problème. Mais c'est pas l'époque de maintenant, hein. C'est une époque où j'étais fin d'adolescence, hein. C'est pas genre, j'ai vraiment beaucoup d'argent, tu vois.
Donc, chaque euro compte.
Chaque euro compte. Et du coup, je me fais, bah, vas-y, je proche pas, un best-of, tu vois, coca-frites. Lui, c'est à son tour, et j'entends. Ouais, alors, je prends Golden Menu, cheeseburger en plus, avec, Sunday, et tout.
Il a fait une commande.
Mais tu sais, et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas me dire, bah, je paye pas, du coup, tu vois. Et du coup,
c'est marrant, ça.
C'est relou de faire ça. Et du coup, il fait, ah, merci, mec, et tout. Franchement, ça fait plaisir. Eh, j'ai grave la dalle. Je vois, mais t'as grave la dalle. Bah, donne-moi un peu de ton McFlurry, quand même.
C'est vrai que c'est étonnant, parce que si je devais, enfin, je me projette dans la situation de ton pote, mais jamais de la vie, je prendrais juste ce qu'il faut pour,
Je prends
ce que tu prends, toi, mais un peu moins, tu vois.
Ouais, exactement, ouais.
Ouais, à fond.
Aurélien.
Bah, ouais, moi, en fait, je suis un peu pareil. C'est-à-dire que, à partir du moment où c'est un pote et que je me dis le mec le fait pas de lui-même, tu vois, c'est-à-dire que il y a pas un moment où il dit oui, il m'envoie même pas un message pour me dire
ouais,
mec,
quand tu vas lui demander,
c'est un
ça
problème,
c'est un conflit. Sinon,
ouais,
il te rendu
et je
direct.
Me dis même putain pour l'amitié, tu vois, du truc, le fait que ça se soit pas fait. Enfin, je me mets dans la situation où lui m'aurait prêté de l'argent. Je sais, je lui aurais envoyé un message en lui disant genre, je sais pas, mec, c'est chaud là, je peux pas te les rendre et tout, ça m'emmerde. Et le fait que ça soit pas réciproque, bah tu sais, c'est tout ce truc de l'amitié, de la réciprocité, ça me fait toujours un peu chier. Ah, comme le truc,
dur,
t'achètes un McDo et au final le mec il prend la totale.
Après c'est pas grave, hein, mais bon.
Mais après les gens ont pas toujours le même rapport à l'argent en fait, donc ouais. C'est toujours un peu compliqué. Moi j'ai eu des fois plein de potes qui avaient pas du tout le même rapport, qui des fois te tapaient grave de thunes, et mais à la cool, genre en mode c'était pas grave. En même temps je savais que si je devais leur demander un service qui avait rien à voir avec l'argent, ils seraient toujours présents, tu vois. Mmh. C'est un peu compliqué de dire par rapport à la thune, donc j'essaye de pas trop être dedans. Des potions magiques, quand même.
Une des grosses peurs des Français.
Bah attends, et toi, tu fais quoi?
Moi, en fait, dans ce genre de situation, J'aime bien que tout soit clair, direct. Tu ouais. vois. Donc j'essaie de faire en sorte que.
Tu fais un contrat ou pas ?
Non, mais par exemple, si je dois quelque chose à quelqu'un ou quoi, j'essaie de faire en sorte que ce soit dès que je le peux le plus rapidement possible.
Ouais.
Et pour tu vois éviter qu'il y ait tout ce genre de trucs, ça me met très mal à l'aise en général.
Je comprends.
Donc je préfère être clair avec tout le monde et que tu vois on soit clean quoi. Mm. Mais parce que j'imagine que quand tu demandes de l'argent à quelqu'un, tu sais que tu lui dois de l'argent. Donc tu sais que l'autre il sait que tu sais qu'il attend, tu vois. Mm. Donc c'est gênant pour tout le monde. Donc évitons cette gêne quoi.
Ouais.
Enfin, bref, mais c'est vrai que c'est toujours bizarre.
Et petite digression, est-ce que vous avez déjà prêté un truc et qui est jamais revenu et vous avez
Oui.
Et il y a un truc très précieux que vous avez déjà prêté, vous êtes là en
mode. Par contre, moi, on m'a déjà prêté un truc et je l'ai jamais rendu, je sais très bien ce que c'est.
Ouh. Vas-y, balance.
C'est nul, hein, mais c'est des albums, des CD de l'époque.
Ouais.
Et que j'ai et que j'ai gardé tout le temps.
Ouais.
J'ai jamais rendu.
Moi, on m'avait prêté le DVD de Un jour sans fin, j'ai jamais rendu.
Ouais, voilà.
Ok. Bah, moi aussi, je pense qu'il y a des trucs que j'ai jamais rendus. Mais inversement, il y a des trucs que j'ai prêté et que je reverrai jamais les personnes.
Ouais, c'est bien, t'as déjà prêté des trucs.
Je pense rendre assez facilement. Je pense, ouais. Parce que j'aime pas être, tu vois, j'aime bien. En fait, j'ai bien, hop, je te le rends. Ça, j'aime bien. Mais t'as Gal Mektoub qui a mon exemplaire de Domu, la BD de.
Le message est passé.
De Katsuhiro Otomo. Ouais. Et c'est un exemplaire rare, donc il faut que je me le rende. Mais dans les plus brefs délais, en fait, c'est vraiment rare.
Est-ce que Lucien,
non, je prête facilement, mais là, à cause de Gal, peut-être je vais prêter moi.
Mais parfois aussi, il y a des moments où tu penses pas. Par exemple, il y a trois semaines, j'ai demandé à Valentin Jean, du Monde à l'envers, de me prêter un néon bleu, parce que j'avais besoin d'un néon bleu.
Ouais.
Et il me l'a prêté, et à chaque fois, je le vois dans mon bureau, et je suis en mode, ah oui, c'est vrai, faut que je l'appelle. Mais deux minutes après, j'oublie. Parce que bon, c'est un nom bleu, quoi, tu vois, je suis là, genre.
Tu veux
bon.
Jamais lui rendre, quoi.
Si, il faut que je lui rende.
Ouais, tu veux jamais lui rendre.
Mais à chaque fois, je suis en mode, putain, oui, c'est vrai, il faut que je rende.
Mais je trouve qu'il y a rien de plus stylé que tu revois ton pote, mais genre, vraiment la fois d'après, et tu fais, oh, je te l'ai rendu. Il y a un truc genre, tu sais,
ouais, t'es clean.
Propre,
t'es un gars clean.
Ouais. Propre, tu fais, putain,
t'es un gars.
Et en fait, et tu me l'as pas demandé.
Tu fais un peu, tu fais un peu l'effort, et si tout le monde fait un peu l'effort, il y a un truc genre, ça se passe bien. Mais l'espèce humaine fait que c'est l'inverse.
Alors, une des plus grosses peurs des Français, selon un sondage, c'est le dentiste. Vous vous en foutez, ça nécessite un peu de potion d'aller chez le dentiste, Guillaume.
Non, moi, c'est bon.
Mais toi, t'es un vrai gars, t'es un dur au mal. Tu t'en fous du dentiste.
Le dentiste, ça
fait rien. Ah ouais?
Non, mais ouais, ça me fait. Moi, j'ai eu des vrais trucs et tout, mais.
Il vient de dire ça comme si c'était pris une balle. J'ai eu des vrais balles. J'ai eu des vrais balles.
Des caries, tu vois, des dents, un abcès, des trucs comme ça, des trucs qui font vraiment mal. Bah, t'y vas, et puis voilà, c'est tout.
Cyprien, le dentiste, ça te demande du courage ou tu vas tranquille?
Moi, j'y vais totalement tranquille.
Ah ouais.
Mais, et moi, je suis exactement comme Guigui, c'est que je comprends pas ceux qui ont peur. Vraiment, tu vois, je ne vous comprends pas parce que tu as mal quelque part. Le mec, c'est le métier pour que t'ailles mieux. Normalement, tu dois être content. Enfin, moi, si j'ai mal, je vais chez le dentiste, j'ai hâte, je fais putain, soulagé, à quelle heure et tout. J'ai la rage de dents et tout. Donc,
parfois, t'as pas mal et juste, tu dois y aller et tu sais que tu vas taper la piqûre, le
petit détartrage.
Non, franchement, vraiment pas du tout.
C'est... Ah ouais. Toi, Aurélien, apparemment, t'as peur du dentiste.
Non, j'ai peur du dentiste, j'ai peur de m'étouffer.
Ah ouais.
En fait, je respire pas très bien du nez et t'es tout le temps à moitié allongé sur cette merde et des fois, ça dure des plombes.
Il l'était.
Et pour le coup, j'aime pas trop. En fait, j'aime bien. Ça me dérange pas d'être chez le dentiste qui soit dans mes dents et tout. J'ai pas vraiment mal. Moi aussi, comme Guy, j'ai eu plein de trucs ces derniers temps. C'était galère de ouf. C'est juste le fait d'enchaîner les trucs très longs et d'être allongé, tu sais, d'être là. Même s'ils ont mis des télés, des trucs. Tu sais, à un moment, je respire plus, j'en ai marre. Tu sais, je commence à être impatient et je commence à le sentir. C'est bientôt fini, monsieur Chapuis. Je fais, ça fait une demi-heure, 45 minutes. Là, j'en ai marre. Et
ça fait des interventions.
Ça, c'est ma hantise.
Incroyable. 45 minutes, c'est méga long.
Non, j'avais des petits canaux.
Il y a plus rien d'origine, là, mon pote.
J'avais des petits canaux à remplir, tu vois. Tu connais.
Ok. Et moi, j'ai eu le malheur d'avoir en fait, mon dentiste, c'était un ami proche de la famille. Et donc, il y avait beaucoup de...
Tu allais tout le temps, quoi.
Non, mais tu vois, il y avait un truc de naturel. Bon, on se connaît, quoi. Tu vois. Et donc, il s'avère que je supporte l'équipe du PSG et lui supporte l'OM.
Aïe.
Et il avait une sorte de jeu comme ça qui était méga relou. C'est genre, j'étais sur la chaise du dentiste. Et donc, il me disait, allez, dis l'OM. Dis, allez, l'OM. Et si je le disais pas, il me disait comme ça avec son truc et tu sais, il mettait un jet d'eau dans la gueule.
C'est
tu vois. Et tu sais, c'était relou quoi. J'étais là genre bon. Et évidemment, je disais allez l'OM, mais il me faisait chier sur plein d'autres trucs quoi. Et puis il y avait aussi un côté où comme il me connaissait, je pense qu'il allait plus à l'arrache qu'avec les vrais clients. Genre ouais, je fais comme ça à lui, tu vois. Et quand les autres clients, il était précieux, tu vois. Mais avec moi, il était en mode bon allez, on s'en fout, tu vois. Donc donc j'ai un petit peu peur du dentiste.
Ah ouais. Si j'avais été dentiste, mais c'est sûr, j'aurais fait mille fois pire, quoi. Tu vois, je vois pas un monde où je joue pas avec la fraise et que je.
C'est très tentant. Hein.
Ouais.
Je peux comprendre. En même temps, je le comprends. C'est très tentant.
Tu vas dire, oula, mais c'est nécrosé. Ah bah non, pardon. Excusez-moi, tout va bien. je sais pas. C'est tentant.
Tu te vas dedans, tu
es trop pourri là-dedans.
Alors celui-là est assez moderne. Si on vous disait demain, pendant un mois, tu ne touches pas à ton smartphone, ce serait tranquillement gérable pour vous ou impossible à gérer, Guillaume?
Ouais, je pense que oui, je pense que c'est faisable.
Ouais, tu pourrais gérer un mois sans smartphone?
Ouais.
Cyprien. Que...
T'as l'ordi, quoi.
Ouais, il y a l'ordi.
Non,
bah,
attends, mais... Non, mais pas Internet, terminé. Enfin,
Ah, pas d'Internet.
Il faut un... Comment dire
Ah, pas Internet pendant un mois.
Alors, ouais. Attends, si t'as pas Internet, pour moi, c'est que t'es dans un endroit où il n'y a pas Internet. Donc, si l'endroit est plus cool que Internet.
Non, non, c'est vraiment.
C'est
genre,
souvent le cas.
C'est vraiment, tu fais une coupure. Là, je dis pas, ouais. Tu fais une coupure. Tu restes à Paris, tu fais une coupure pendant un mois, tu touches pas ton smartphone.
Je pense que la réponse contraire, ce serait triste en vrai. Si on commence à dire, ah non, je pourrais pas et tout. Attends.
Un non, mois, mais en vrai, c'est une vraie question aujourd'hui.
Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que c'est faisable. Parce que nous, en plus, on a connu. On n'est pas nés avec. Hein. Tu vois, on s'est s'amusé sans.
Ouais, mais
vois.
Aujourd'hui, c'est vraiment un prolongement de la main.
Pas
quoi,
Internet,
tu
moi.
Tu pourrais, c'est rien,
bah. Bah c'est vrai que c'est hyper pratique et tout et maintenant depuis genre un an je fais un truc c'est que maintenant je scrolle sur les chiottes tu vois ce que je faisais pas du tout, ce que je faisais pas avant quoi je suis sur les chiottes et en plus je bon, ça me rajoute quelques minutes en plus de tu vois inutile que j'ai ouais. vraiment perdu de ma life quoi donc je vais essayer de peut-être arrêter ce genre de choses mais je pense que ça irait moi je m'occupe en tout cas très facilement tu vois moi c'est faire je sais pas écrire regarder quelque chose voilà loisirs créatifs et tout donc je pourrais m'occuper très facilement derrière je suis pas genre putain si j'ai pas mon smartphone j'ai rien à foutre ouais. C'est la mort quoi c'est pas du tout le cas
et enfin on termine sur la peur la plus répandue chez les Français selon un sondage c'est la peur de l'avion vous vous en foutez vous ou encore encore là ça demande du courage
je vais encore gagner
tu n'as peur de rien
j'ai pas peur de l'avion du tout en fait mais bon
t'as peur de rien Guigui
mais non quoi, mais si c'est mais j'ai peur bah tu vois par exemple j'ai plus peur d'une petite souris que d'un avion
ah.
Non les souris j'aime pas parce que ça me fait sursauter c'est ça qui m'énerve
ça te fait sursauter
quand ça arrive d'un coup t'es ça c'est
voilà. Il y en a une qui est passée chez WAM
ça fait sursauter
ah ouais et non mais elle est vraiment passée vraiment derrière ma télé tu vois donc je pouvais la voir et c'est très marrant parce que bref.
C'est ça, c'est une souris, ça?
Non. J'ai, en fait, elle s'est mise derrière un radiateur, ok?
Ok.
Et du coup, donc, ma meuf terrorisée et tout, tu vois. Moi, I don't give a shit, tu vois. Ce n'est pas mon problème, m'en fous. Je la regarde. Et en fait, elle me dit, vas-y, jarte là, je sais pas quoi. Donc, je me dis, elle est derrière le radiateur. Je regarde en dessous, sous le radiateur, elle est plus là. Je fais, waouh, tu vois. Ma meuf regarde sur le côté, la souris s'était mise sur la plinthe. Ce qui fait que, elle savait qu'on pouvait la voir du dessous, du coup elle s'est remontée un peu. Je suis putain, vraiment forte. Tu vois. Du coup il fallait vraiment la regarder de côté pour la trouver. Tu vois, je suis putain, elle est vraiment intelligente. Et là, il s'est passé un truc assez drôle où ma meuf elle a mis une sorte de carton d'un côté. Et moi j'allais vraiment la prendre avec les mains et tout. Peut-être j'aurais chopé un truc. Mais
ouais, c'est
pas.
Ça.
C'est, à ce moment-là j'ai pas trop réfléchi à ça. Je dis vraiment je vais la choper. Peut-être j'avais pris un mouchoir, mais bon bref. Et en fait, là, elle donc c'était un peu dans un coin. Ma meuf elle tient le carton au sol, mais vraiment terrorisée, tu vois. Pour qu'elle puisse pas sortir de l'autre côté, comme ça fait une sorte de, tu vois, voilà, je peux la choper quoi. Et là vraiment, je commence à aller un peu sous le radiateur. La souris, elle sort un peu, elle fait un rond suffisant pour que ma meuf soit terrorisée face un banc en arrière. Et du coup, les cartons étaient vraiment très loin, tu vois. La souris s'est barrée. Je fais putain, mais la souris, elle connaît genre comment ma meuf va réagir. Tu vois. Elle est trop forte. Elle fait, hop, je fais juste ça, tu vois.
C'est intelligent.
J'étais très impressionné quoi. Et après, je l'ai revue ensuite dans ma cuisine aussi. Et on l'a plus revu entre eux depuis.
Moi, je me souviens un jour, une nuit, avec mon pote Mehdi, on était en train de regarder la télé dans ma chambre. On devait avoir, je sais pas, 20, 21 ans. Il est 4h du matin, on comate devant la télé, on dit rien. Tu sais, ce moment-là où juste tu parles plus avec ton pote, tu regardes la télé, puis tu dors pas trop et tout. Et là, on entend un petit bruit assez chelou. Et on allume la lumière et il s'avère qu'il y a une souris dans la chambre. Et à l'époque, j'avais un chat, enfin, un autre chat que celui de maintenant.
Qui fait très mal son travail.
Et du coup, j'ai ramené mon chat, je l'ai mis dans la chambre, j'ai fermé la porte. Et là, j'ai entendu un boucan pas possible.
Ah ouais, trop stylé.
Mais ouais, mais franchement,
ça a marché, quoi.
Non, mais franchement, c'était Tom et Jerry, quoi. Non, mais c'était vraiment ça. C'était Tom et Jerry. Genre, j'entends des bruits. Genre, ça court de partout et tout. Et au bout de quelques minutes, bah, plus de bruit. J'ouvre la porte et il s'avère que.
Elle l'a bouffé.
C'était terminé, quoi. Elle l'avait tué, tu vois. Et figure-toi, je me suis senti méga coupable au final, tu vois.
Bah.
Parce que, j'ai vu cette souris morte et je me suis dit, en fait, c'est pas cool ce que j'ai fait, quoi. J'aurais pu trouver peut-être un moyen de. Et on lui a offert des funérailles dans la cheminée avec mon pote à 5h30 du matin. Et puis ça s'est terminé
sans
comme
parler.
Ça.
Mais du coup, ta soirée un peu nulle où tu parlais pas, c'est devenu un vrai truc.
Mais ouais, c'est devenu un truc mémorable, tu vois. Et du coup, ouais, on a fait une sorte de petite prière dans la cheminée, elle est partie comme ça. Et ouais, je me sentais un peu coupable. Mais c'était vraiment Tom et Jerry, c'était fou, quoi.
Et là, du coup, comme j'ai vu deux fois cette souris, j'ai googlé comment se débarrasser d'une souris. D'après vous, quel est le conseil numéro 1?
Alors, je sais que
tu trouves sur Internet.
Alors, ma mère récemment a vu une souris chez elle et tu peux acheter une petite boîte et elle va dans une boîte sans souci et après ils l'ont relâchée dans la nature.
Je sais que dans mon appart d'avant, j'étais allé voir la concierge, qui s'occupait et elle m'a donné le conseil le plus débile pour se débarrasser d'une souris. Attention, ouvrez les fenêtres. Bon, allez.
Se suicider.
Allez, c'est bon.
Tu vas sur n'importe quel forum, n'importe quel top, le numéro 1, c'est avoir un chat.
Ah, ouais. C'est ça.
Ce qui est très engageant en termes de temps et tout ça, je trouve. Même émotionnellement, c'est peut-être un peu.
Faut faire des trucs.
Faut le caresser, tout ça. Voilà.
Alors, je ne l'ai pas cité, mais
on n'a pas parlé de notre peur de l'avion, mais.
Ah oui, c'est vrai, la peur de l'avion.
Moi, je suis comme il dit, pareil.
Ouais, non.
Je m'en fous. Quand il y a des turbulences et tout, je fais. C'est le moment où on meurt, là. Et après, je fais. Non.
Voilà. Toi, Aurélien, t'as peur de l'avion?
Pas trop à la base, mais ma meuf, elle est vraiment tétanisée. Pour le coup, ça me tétanise, en fait.
Et ça te l'a,
la voir, en fait, visuellement, ça, tu sais, elle est accrochée, tout ça, et pour le coup, bah, ça me procure plus. Enfin, je me dis, ça va, et tout. Et ça fait, bah, en fait, c'est bizarre, non? Tu sais, ça fait un truc communicant. Je pense que si j'étais tout seul, peut-être, ça irait. Mais après, je sens, en fait, les autres, tu vois. Et donc là, je regarde un peu les gens et je vois certains qui le vivent mal, tu sais, qui sont en sueur, qui sont à boire de l'alcool et tout.
Moi, je regarde jamais les autres.
C'est quand même ce truc où, tu sais, quoi qu'il arrive, qu'est-ce que tu veux faire?
Ouais, ok.
Quel grand sage, Guigui, on va le mettre en haut d'une montagne.
Tu vas
nous faire plusieurs kilomètres pour le retrouver.
Quand vous tapez conseil numéro 1 sur Google, c'est ça qui sort. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Qu'est-ce que tu veux faire? Faut que t'es en l'air.
Moi, je suis jamais trop serein en avion, mais je pense que c'est une histoire d'habitude. Je pense que quand t'as l'habitude de prendre l'avion plusieurs fois, tu perds ce truc.
Oui.
Et quand tu le prends une fois tous les 2 ans ou 3 ans, t'es en mode flip de ouf, quoi. Mais moi, c'est pas, souvent les gens disent, j'ai peur lors du décollage ou de l'atterrissage.
Non.
Moi, j'ai surtout peur au milieu, quand on est au milieu de l'océan, parce que je me dis, waouh, il y a juste l'océan en dessous, quoi.
Moi, c'est une turbulence quand la lumière est éteinte. Là, je fais waouh, les gars.
Mais pour le coup, t'as vraiment la grande majorité des accidents. Il y en a eu très peu, mais la grande majorité des accidents en avion, c'est vraiment, décollage et atterrissage. Donc, au moment où t'as peur, c'est le moment où
tu déjà. Rio, là, qui s'était perdu en pleine mer, ça m'avait un peu traumatisé.
Non, mais t'en as un qui.
Au décollage.
Non, c'était pas décollage, c'était en pleine mer.
Non, c'est vrai.
Et ben, c'est ça. Je sais pas toutes citées, mais dans les 10 peurs des Français, nous avons également la peur des serpents, la peur du vide, celle des espaces clos.
J'ai un peu le vertige, moi.
Ouais.
Ouais, vertige.
Ça va mieux.
Il y a aussi celle des espaces clos, la peur du hacking informatique, qui est rentré dans le top 10.
Génial, le hacking.
J'ai peur du hacking.
Et surtout, la peur du hacking, enfin, au moins, quand t'as peur du vide, c'est qu'on a du vide. Quand t'as peur de l'avion, c'est qu'on a un avion. La peur du hacking, c'est permanent, en fait.
C'est tout le temps.
Tu fais, j'espère que mon mot de passe n'a pas été.
C'est clair.
La peur des clowns, bizarre. Et enfin, la peur du noir, même chez les adultes. Ouais. Donc, c'est un nom spécial.
Est-ce que vous pensez que Stephen King, il a joué sur la peur des clowns ou ça existait avant?
Bah non, oui, forcément il a joué dessus.
Parce que franchement.
Ouais, alors, mais c'est une bonne question. Moi, je me.
Qui avait peur des clowns avant? Avant, c'était censé être.
Non, il y a toujours eu une peur des clowns parce qu'il y avait ce tueur en série. Comment il s'appelle ce tueur en série qui se déguisait en clown?
Oui.
Un des pires de l'histoire américaine.
Ah non, je connais pas ça.
Gacy?
Non. Exactement, si. Clancy ou.
Non, Gacy.
Gacy, exactement.
G-A-C-Y.
D'ailleurs, je crois qu'il y a une chanson de Sufjan Stevens qui s'appelle.
Ah bon?
Ouais, qui s'appelle comme ça, du nom du tueur en série.
Yes.
Et bon d'ailleurs, vibe. Ce type, après, ce tueur en série, ce fameux tueur en série, qui se déguisait en clown pour tuer des enfants.
Yes, ouais, bon délire.
On l'embrasse. Hein.
dans sa
on baille.
Une fois en prison, il peignait des tableaux qui étaient horribles, dégueulasses. Vous tapez. alors, c'est con parce qu'on n'a pas le nom exact de ce tueur en série.
Des tableaux de clown.
Des tableaux de clowns et autres.
Parce que
et les tableaux sont dégueux.
Ouais, il y a un groupe qui s'appelle Acid Bass, pour un groupe de métal, qui a fait une pochette avec un tableau de lui.
Eh ben, tu vois.
Sérieux?
Mais figurez-vous que ces tableaux valent cher aujourd'hui.
Pourquoi?
Bah, parce que c'est genre, tu sais, c'est comme.
Il me semble.
Récemment, j'ai regardé le reportage sur le tueur en série Richard Ramirez, qui vient de sortir sur Netflix. Très beau, très belle série docu. Enfin, non, pas très belle.
Non, c'est pas très beau.
On en a parlé. Très bonne série hier avec Guillaume. J'ai adoré l'inspecteur. Enfin, finalement.
C'est exactement ce que j'ai dit à Guillaume. J'adore.
Ouais.
Il a un truc très cinématographique, cet inspecteur.
C'est son histoire.
Salerno, là.
Le fait que ce soit le petit newbie qui rentre, etc., qui est pas trop pris au sérieux et tout.
Non, c'est cool.
Et qui soit un peu chapeauté par le gars qui a de l'expérience. Son histoire à lui, elle est trop, trop belle. J'adore ce personnage.
Alors, je sais plus du tout pourquoi je parlais de Richard Ramirez. Mais, ah oui, voilà, pour dire que Richard Ramirez, c'est un des pires tueurs en série de l'histoire américaine.
Ouais,
mais il faut savoir que quand il y a son procès qui arrive, il y a plein de meufs qui lui envoient des photos d'elle à poil ou en mode, j'aimerais trop sortir avec toi, etc. Et finalement, il s'est marié avec une meuf après, Richard Ramirez. Donc c'est assez incroyable. Bizarre. Il y a une sorte de fascination.
Après avoir violé des enfants, tué des mamies, mis sa bite dans une tête décapitée. Et après, il y a des meufs qui envoient des nudes.
C'est horrible.
Non, mais c'est ouf. Là, récemment, alors.
On a fait hier avec Guigui, on faisait un peu le bilan de ce qu'il faisait. Et on a fait, dégueulasse.
Non, mais alors,
c'est vraiment horrible.
On fait le bilan de ce qu'a fait Richard Ramirez. Mais après avoir vu la série docu sur Netflix, je me suis renseigné sur un autre tueur en série. D'ailleurs, il y a une autre série docu qui est assez cool sur Netflix sur le tueur en série Ted Bundy.
Ted.
Je suis retourné sur Wikipédia de Ted Bundy. Il faisait des trucs, le gars. Alors, c'est très loin d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, ce que j'ai voir à côté. Mais en gros, ce qu'il disait, c'est que.
Shabba, si t'entends l'émission, on sait tout ce qui s'est passé. On n'est pas garant de tout ça.
Il tuait des femmes. Et
mais
en
c'était
fait,
que des femmes, par contre.
Et en fait, ce chacal, il revenait des mois plus tard sur la scène du crime. Il savait où était le corps, parce que personne n'avait retrouvé le corps. Et en fait, il recommettait un acte sexuel sur le corps en
décomposition.
En décomposition. Et il arrêtait jusqu'à ce qu'il y ait putréfaction du corps et que le corps n'existe plus et qu'il soit bouffé par les animaux, quoi.
Il y a une très bonne ambiance dans ce podcast.
Non, mais comment tu peux arriver à faire ça, putain? Et le pire, c'est qu'en plus.
Ted Bundy qu'on embrasse également.
Non, mais le pire, c'est que j'ai vu des interviews de Ted Bundy. C'est un mec, il est un peu beau gosse parce qu'il avait cette particularité d'être un peu beau gosse, Ted Bundy, etc. Et quand on le voit parler, on se dit, mais attends, mais comment ce gars peut faire ça?
Il avait beaucoup d'éloquence, etc.
Ouais, voilà. Comment il peut faire ça? C'est dingue. Ouais. Enfin, bref.
Moi, c'est le truc qui m'a rendu ouf sur le docu sur Ted Bundy, c'est le juge qui dit, dans une autre vie, vous auriez pu être quelqu'un de bien ou d'intéressant et tout. Je fais, mais fais le bilan, mec. Pourquoi tu dis ça? Je suis en série, tiens. C'est ça m'a énervé quand le
comment
juge.
Comment on revient sur Astérix après?
Bah, j'ai dû dire. En 99. Le réalisateur Claude Zidi.
Il dit
c'est tout ça. Il n'y a pas de transition.
Non, le réalisateur Claude Zidi, que l'on connaît pour Les Soudoués. Tu as bonne ambiance déjà, Les Soudoués. On revient dans une meilleure ambiance. Voilà.
Claude Zidi, on est loin du meurtre.
La machine à claque.
Exactement. Claude Zidi, on le connaît pour Les Soudoués, L'aile ou la cuisse ou encore Les Ripoux. Il a ouvert la voie en mettant en scène Astérix et Obélix contre César, ce qui a permis d'installer les acteurs et les personnages dans l'esprit des spectateurs. Trois ans plus tard, en 2002.
Ce film, il est comment?
Il est vraiment différent.
J'ai pas un bon souvenir.
Il est plus pour la famille en mode, tu vois. Non, ça, je pense que ça respecte plus la. Enfin, ouais. Je dirais pas que ça respecte plus la BD, mais en tout cas, c'est plus familial.
Ouais. C'est nul un peu. Quand même.
Ouais, voilà. C'est moins bien que le.
Okay, ouais.
Mais d'ailleurs, le Mission Cléopâtre, il respecte la BD. Tout ça, c'est dans la BD.
Ouais, aussi. Ouais. Ouais. La trame, c'est la même. Ouais, la trame est dans la BD.
Quasiment. Sauf que
il a rajouté des trucs, mais
la
fouille.
Non, non, non. Amiens du Capa, mais oui, c'est
la même trame. Ok.
Ouais, Chabat, il avait dit qu'il avait en gros renouvelé uniquement les cases où les blagues, elles étaient trop vieilles.
Ok.
Donc il avait essayé de garder le même humour et de le rendre mieux.
C'est un mytho, ça, parce que tu vois tellement sa patte, c'est pas du tout.
Mais après, c'est fidèle à l'histoire, d'accord.
Ouais. Ah ouais. Et les personnages et tout, mais en vrai, l'humour et ce qui fait exploser de rire les gens, c'est pas du tout les blagues de la BD.
Et donc trois ans plus tard, en 2002, c'est Alain Chabat qui a eu l'honneur d'être choisi pour mettre en scène les deux Gaulois. Un véritable rêve, car pour lui, la BD, ça a toujours été sacré, Aurélien, Alain Chabat.
Dans le sens, tu disais pour moi. oui, tout à fait. En effet, Alain Chabat, j'ai découvert plein de trucs en faisant des petites recherches sur Alain Chabat, parce qu'en fait, la bande dessinée, en fait, c'est vraiment son kiff premier.
Ouais.
C'est-à-dire que Chabat, au départ, il voulait vraiment être dessinateur. Il a rencontré un peu comme tout le monde, comme on en parlait. Il a découvert donc Spirou. Astérix, c'était son premier kiff et il s'est avéré qu'il a vécu lui aussi à Bobigny assez longtemps. Donc il a eu une sorte de mimétisme avec Uderzo et Astérix c'était vraiment sa BD première et après il y avait surtout Spirou et il disait qu'à l'époque il consommait beaucoup les petites bandes dessinées qu'on avait en format poche là les Swing tous ces trucs qui se passaient entre les cowboys les Indiens donc il y avait tout cet imaginaire un peu américain aussi qu'il développait beaucoup et après il y a eu bien sûr t'en parlais Pilote et les affiliés de Pilote donc notamment Flux Glacial qui arrive derrière l'Écho des Savanes donc tous ces magazines où il y a en général donc des planches avec des histoires assez courtes et lui il se dit vraiment mais en fait j'ai envie de faire ça quoi surtout Gottlieb rubrique à braque ouais. Trucs comme ça il se dit genre vraiment c'est mon humour c'est ce que j'aime voilà c'est ce que je veux dessiner c'était déjà dans Pilote en plus d'ailleurs parce que c'était scénarisé par Goscinny donc c'est là à mon avis que Alain Chabat a vraiment senti son humour arriver c'est de l'humour de bande dessinée en fait
et d'ailleurs j'avais lu une interview de Chabat qui disait que en CM1 il y avait eu un exercice avec la maîtresse et la maîtresse avait dit mettez dans la marge, le métier que vous aimeriez faire plus tard, et en CM1, il avait écrit dessinateur, Chabat.
Ouais.
C'est pour ça que je me sens très, enfin, voilà. Pour moi, c'est une vraie référence.
Ouais.
une vraie référence, un vrai modèle pour moi. Et aussi pour un milliard de raisons, j'ai pas tout digué de sa life parce que ça fait un peu creepy, mais déjà dans son humour et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on peut voir, je me sens à 100% là-dedans. Ça m'a beaucoup influencé et en plus quand j'ai un petit peu creusé lui comment il met en scène aussi un petit peu ce qu'il aime et tout je me sentais en phase à fond parce que moi enfin je dessine depuis que je voulais enfin moi j'ai rempli aussi la case tu veux faire quoi plus tard dessinateur tu vois
dessinateur donc, BD tu voulais faire ou dessinateur en général
BD moi ce qui me passionne c'est vraiment les personnages les histoires les aventures etc après c'est dur d'écrire des histoires enfin quand j'étais bien ado sûr. Du coup je préférais juste dessiner un peu des trucs un peu plus vains quoi. Et oui voilà
mais il dessine bien là Chabat
Bah écoute, c'est ça qui est intéressant, ouais, c'est quand ouais. il dessine donc énormément quand il est jeune, et donc en 78, il est publié dans deux magazines qui sont BD Underground, mais à cette époque-là, c'est donc après, c'est la même époque que Metal Hurlant et tout. En fait, il y a énormément de fanzines, magazines, bandes dessinées, où en fait, bah, tu peux assez facilement être publié. Il y a quand même deux gros magazines BD qui étaient très importants à l'époque, qui s'appelaient Antirouille et Mohican, dans lequel il fait deux pages, en fait, signé Alain Chabat. Ça doit coûter un peu de la thune, ça, maintenant. Où il racontait en une page des histoires. Et en fait, il s'est assez rendu compte assez rapidement que finalement, son dessin, c'était plutôt du dessin d'humour. Et donc, il se rapproche un peu de l'esprit des dessinateurs de New Yorker. Il dit, en fait, ce que j'aime bien, c'est faire un dessin avec une blague, une citation, ou alors du strip. C'est pour ça qu'il commence à s'intéresser au strip, où c'est juste une suite de quatre images. Et il dit, c'est un peu un truc que je vais toujours garder, parce que c'est comme à chaque fois qu'il veut... Il dit, même quand je vais expliquer quelque chose, en fait, même pour Burger Quiz, il disait, quand je veux expliquer une situation et que je sais pas comment l'expliquer avec des mots, en fait, je fais une suite de crobards. Et j'explique, en gros, comme un petit storyboard. Et pour lui, il fait, c'est finalement les mimétismes que j'ai de comment je voyais mes bandes dessinées à l'époque, quoi.
C'est d'autant plus une référence pour moi parce que je fais exactement la même chose. Donc moi, j'ai réalisé par exemple un court-métrage l'année dernière que j'ai publié sur ma chaîne YouTube et ou même sur tous mes autres sketchs. Et à chaque fois, moi, j'ai un tableau blanc à mes bureaux et tout. Je dessine tout, je fais toutes les cases, tous les plans, etc. J'adore ce truc de comme je fais du dessin. Pour moi, c'est très naturel de faire le storyboard et de faire mon découpage comme ça. Tu vois, moi, j'ai tous mes potes qui sont réalisateurs qui font plutôt des plans au sol, donc ils font les personnages, les déplacements, les caméras, tu les mets là et tout. Moi, je préfère largement. Je dessine ma petite amorce, mes trucs, mes travelling, je fais mes flèches et tout, tu vois, pour que n'importe qui puisse regarder le truc. D'où pour moi la BD, la réalisation. Et pour moi, c'est normal que Chabat soit aussi réalisateur et qu'il ait ce truc du rythme, parce que quand tu fais de la BD, comme Riyad Sattouf ou n'importe qui, c'est la réalisation et tu cadres déjà ton récit en image, en rythme et tout. Donc en fait, quand t'as une suite d'images, c'est encore plus simple.
Bah ouais, t'as déjà des cadrages et tout. Bah c'est exactement ça qui va arriver. Et c'est encore pire parce que le début de la carrière en fait de Chabat, qui va commencer à la radio en 1980, c'est incroyable parce qu'il dit genre je veux tester la radio. En fait, il y va un peu sans y croire, mais il y va en voulant faire une sorte de reportage, en se disant je veux créer une sorte de Gaston Lagaffe, animateur de radio. Je veux faire une bande dessinée en fait. Et je me dis je vais aller être animateur pendant quelques mois et puis je vais voir si ça me donne la matière suffisante pour créer une bande dessinée en fait autour de la radio libre qui venait de se créer. Et il voulait en faire un personnage en fait de ça.
C'est fou.
Et en fait, il se fait rattraper par la radio parce que ça cartonne. Il est sur France Inter, j'avais noté quoi ? Attends, c'était marrant. Radio Andorre. Il était sur Radio Andorre.
Okay.
France Inter au début, RMC. Et donc ça cartonne. Il fait une émission avec Dick Rivers sur la musique parce qu'il voulait aussi être chanteur de rock. Il avait ses deux passions, il y avait la musique, il était très rock, il avait la musique et la bande dessinée. Et donc cette passion pour la musique et pour l'audio commence un peu à l'emmener de la bande dessinée. Et à RMC, il rencontre Pierre Lescure, qui deux ans après lui dit genre « Écoute, je monte Canal+, est-ce que tu veux faire ce que tu fais à la radio, mais à la télé ?» Et il fait « Ok, go !» Et c'est en fait finalement un cheminement complètement naturel de son esprit bande dessinée, parce qu'il va dire en gros « L'humour que j'avais, que j'amenais, tout, c'était l'humour que je voulais amener dans mes dessins et dans les bandes dessinées que je lisais. » quoi. C'était du Goscinny, c'était du Pilote, c'était du Flux Glacial, c'était du Gottlieb, mais en version live, quoi. Mais c'était vraiment cet esprit-là. Ce qui est assez ouf, c'est que pour le coup, en étant un grand fan de Gottlieb, quand ça cartonne pour les nuls, en 88, il scénarise une page pour Rubrique à Braque de Gottlieb, qui sera dessinée par Gottlieb en 88, qui paraît dans Flux Glacial et qu'on peut retrouver dans Rubrique à Braque, le dernier volume, je crois. Donc c'est vraiment une page qui est écrite par Alain Chabat.
Ouais, c'est cool. De toute façon, quand tu t'es inspiré par des gars, t'aimes bien essayer de faire la boucle, tu vois, de dire ah tiens, j'ai réussi à, tu vois.
Ça veut aussi dire que quelque part Gottlieb s'est retrouvé dans l'humour de Chabat et était ok pour le scénario qui scénarise qui remplace Goscinny en fait, parce que Rubrique à Braque c'était ça quoi. Donc c'était assez ouf. Et après il a une collection avec un dessinateur assez important des années 80 qui s'appelle Liberatore. Qui est le mec qui a inventé Rank Xerox. Vous connaissez le personnage Rank Xerox ?
Non.
C'est une sorte de personnage complètement fou, dans des proportions un peu folles, très cyberpunk en fait, qui est une sorte de mélange de Terminator, Robocop et Rocco Siffredi, comme ça qu'il le présente. Donc c'est hyper violent, hyper porno, et c'est un truc qui sort dans L'Écho des Savanes au début des années 80. Et en fait, Chabat adore Liberatore, ils se rencontrent. et ils vont commencer à faire de nombreuses collaborations. Liberatore va faire tous les dessins des émissions des nuls.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois un dessin, la plupart du temps, c'est Liberatore qui dessine.
Okay.
Liberatore va faire l'affiche de la Cité de la Peur.
Ah ouais?
Et après, ils sont okay. tellement potes qu'il le met dans ses films. On le voit dans Didier, en tant que personnage. On le voit dans Mission Cléopâtre, mais il est coupé, comme Omar Sy. Et c'est lui qui va dessiner tous les décors et les costumes, surtout les costumes de Monica Bellucci, dans Mission Cléopâtre. Donc il y a vraiment une liaison encore avec la bande dessinée. Et tu vois, il dit qu'ils ont vraiment... je sais pas, un truc qui se passe entre eux dans leur façon de voir les choses. Et en fait, ils vont... Donc, Ranks et Rock, c'est deux albums en 83 et 84, si je ne m'abuse. Après, bah forcément, vu qu'il fait plein d'autres trucs, Liberatore, il lâche un peu la bande dessinée, l'écho des savanes et tout. Et en 96, Chabat, il dit, bah tu veux pas qu'on refasse un Ranks et Rock? Et pour le coup, Chabat scénarise une BD Ranks et Rock avec Liberatore qui la dessine et qui est une suite du personnage de 83-84 qu'ils avaient kiffé.
Donc, c'est le tome 3, quoi.
Exactement. Ouais. Qu'ils font ensemble. Alors
c'est un truc que j'adore aussi, du coup, ce truc-là, c'est chez Chabat. C'est donc, du coup, son rapport à la bande dessinée et même au dessin animé, parce que il a monté une boîte de prod, je crois, qui s'appelle chez WAM, et qui fait toutes les animes de. Qui fait le burger. Enfin, je sais pas ce qu'il fait dans le. Bah, peut-être tout le Burger Quiz, mais surtout les animations, en fait. Et il y a beaucoup de trucs d'animation. Tu regardes le DVD de Mission Cléopâtre, et dedans, il y a plein de petites animations dans les menus. Mais genre c'est interminable en fait, ça dure hyper longtemps et c'est trop marrant, c'est des petits trucs et tout. Et même il a fait une série d'animation pour M6 là, comment s'appelle
Avez-vous déjà vu
voilà. Tu vois.
Ah oui.
Et moi qui suis fan aussi d'animation, là je fais mon dessin animé et tout, mais tu vois, tu essaies de trouver un peu des gens qui créent un peu la manière que toi et tout, et ou que tu copies. J'imagine que voilà, c'est un peu du mimétisme, et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans ce qu'il fait.
Bah justement, dans la version bonus de Mission Cléopâtre, apparemment tu vois absolument tous les storyboards de Alain Chabat, les originels, et comme tu disais, il dessine absolument tous les plans. Et donc c'est, t'as une BD en fait, Mission Cléopâtre, qui existe, de Chabat, bon, en croquis, hein, mais
moi, j'avais bossé sur un projet avec justement le premier assistant réalisateur du film. Et du coup, j'ai posé un meilleur question, je vais alors, comme, enfin, tu vois, sur Chabat surtout. Donc c'est un mec qui est vraiment de la bouteille. Et il me disait, bah tu sais, parfois il arrivait et le matin il avait, en fait j'ai fait le storyboard, et il montrait, c'était une case avec un œil, tu vois. Et il me dit, c'est tout qu'il m'a dit. Il m'a dit, parfois c'était, tu sais, des petits crobards de trucs. Il dit, mais tout suffisait pour, tu vois, pour mettre en scène. Et je trouve ça assez fou. Hein.
Bah ouais, c'est assez fou. Et donc tu l'as dit, juste après, peu de temps après, il fait Le Marsipulami, donc le film qui était en fait le premier film qu'il voulait réaliser, parce que c'est vraiment un personnage qu'il adorait. Et donc avant de vouloir faire Astérix et Cléopâtre, lui il voulait vraiment faire un film Spirou et Fantasio, qui finalement n'a jamais été fait. Et il a fait le film Marsipulami, qui est redevenu une bande dessinée, parce que genre dans la suite des bandes dessinées, l'auteur, qui n'était plus du tout Franquin, a décidé de reprendre le scénario du film et de l'adapter. Donc c'est vraiment une BD qui est d'après le scénario de Alain Chabat, mais qui revient en dessin.
Mais il y a eu un film Spirou.
Il y a eu un film Spirou bien plus tard. C'est là, mais là, pour le coup, Chabat rien à voir. Ouais. Mais par contre, il y a.
Si vous voulez qu'on parle de mauvais films, on peut y aller.
Il y a Ramzy.
Ça n'a jamais été fait, mais oui, c'est.
Ça n'avait pas été fait à l'époque, et en fait, il n'avait pas réussi à pouvoir avoir une aventure de Spirou et Fantasio. C'était vraiment une aventure du Marsipulami.
Ouais.
Donc il y a juste ce personnage-là, je crois, que tu vois dans le film.
Ouais, il y a que le Marsu.
Et le reste, c'est du live action.
Mais Spirou et Fantasio sont pas des bons persos pour faire une grosse comédie, en fait. C'est des personnages qui font trop d'aventures, tu vois.
C'est donc ça. C'est un peu comme Tintin, en fait. Faut en faire soit, à mon avis.
Tintin, t'y arrives pas. Tu peux pas faire une grosse comédie Tintin, tu vois.
Faut faire un délire à la Spielberg, sinon un truc un peu entre mélangé.
Ouais, mais quelques vannes. Mais dans Astérix, tu peux faire une grosse comédie. Mmh. Pour moi, s'il avait fait Spirou et Fantasio, je pense pas qu'il aurait pu amener autant de comédie.
J'ai jamais lu Spirou et Fantasio.
C'est génial.
Ouais.
Après, il y a énormément de Jeff Franquin, dessinateur absolument incroyable. Et surtout, c'est la seule série, je trouve, où à chaque fois qu'il y a eu un nouveau dessinateur après Franquin, ça ouvre des possibles incroyables. Ouais. Moi, j'aime bien la période Fournier qui arrive juste après Franquin. Après, il y a pour nous plus, enfin. Tout ce qui se passe avec Tom et Jean-Ry dans les années 80-90.
J'adore Johan.
Ça ouvre. Ouais, Johan aussi, derniers, c'est fou.
Et je trouve ça trop beau, quoi.
Même ce que Émile Bravo, il fait en ce moment en inventant la jeunesse de Spirou pendant la guerre et tout. Franchement, Spirou, c'est peut-être le personnage qui a eu le plus de possibilités. Ça va beaucoup plus loin. Alors qu'Astérix, tu vois, les derniers, ça reste les mêmes Astérix qu'il y avait à 50 ans. Ça change rien. Et Tintin, les mecs, ils sont tellement comme ça que finalement, t'auras jamais des Tintin, des nouveaux Tintin. Ça n'existera pas, tu vois. Donc Spirou, je trouve que c'est celui qui est le plus mobile, plus sympa. C'est un personnage, C'est un univers, en fait, qui est hyper large, je trouve.
Au cinéma, pas trop.
Non, c'est vrai.
Est-ce que vous étiez bon en dessin à l'école? Alors, j'imagine que toi, Cyprien,
oui. C'est ma passion. Genre, ouais. Tout à l'heure, je dessinais encore sur ma tablette, là, voilà, entre deux trucs.
Guillaume, toi, t'as dessiné un petit peu?
Ouais, je dessinais à fond. Je dessinais grave quand j'étais petit, et lycée, collège, tout pareil. Et puis après, j'ai fait art appliqué.
Ah ouais, donc tu voulais vraiment...
J'ai fait mise à niveau en art appliqué. Préparation pour les BTS.
Pendant tu dessines quoi, genre? Enfin, c'est quoi son...
Non,
c'est
mais
quoi
pendant, ton, au tout début, je dessinais... je dessinais plutôt...
Des bits?
Ouais, des personnages de BD, pas mal.
Ah, ok.
Et je recopiais beaucoup, en fait. Genre les Marvel et tout. Ah, je recopiais sur des feuilles. Après, j'ai recopié des Dragon Ball, je recopiais à fond. Et puis voilà, donc je dessine.
Souvent, avant de faire tes propres trucs, tu vois, dans ce mimétisme. Moi, j'avais copié aussi des personnages de Disney, etc., etc. Et après, tu... Ouais. Et...
J'ai complètement arrêté, par contre.
Ah ouais?
Ouais, je sais pas, du coup, j'ai fait de la musique, et après, avec la musique, j'ai arrêté.
Ouais, mais après, quand t'as une passion qui prend trop de place aussi,
Et toi, rien, tu dessines un petit peu ou pas? Bah, toi qui adore la BD, qui est un gros fan.
Ouais, bah, moi, j'adore, j'aurais adoré raconter des histoires. En fait, mon truc, c'est que quand j'étais plus petit, j'écrivais des livres. Bon, des livres, on va dire, des suites de nouvelles et tout, de détectives et tout ça. Et mon frère, lui, il faisait des sortes de dessins à partir des univers de Lego, où il y avait les pirates et l'amiral, et il créait tout ça, un univers.
Et jamais vous êtes mis d'accord, genre, j'écris des histoires, toi, tu...
Bah si, justement, sauf qu'à un moment, mon grand truc, c'était de démarrer des nouveaux univers, des nouvelles histoires, et je créais un personnage, hein, et je dessinais, c'était nul, je les ai revus, c'était pourri, et pourtant je passais du temps et tout à essayer de les faire, tout était nul, aucune proportion, aucun sens, mais j'ai plein de personnages par contre. J'ai Bob Flash, détective de choc, avec beaucoup de sang qui tue plein de gens.
Détective de choc, le nom est bien, Bob Flash,
pas mal, hein.
Bob Flash.
J'ai le chevalier Harold de Chevalier, lui c'était parce que je venais de faire les cours de Moyen-Âge, donc je refaisais tout mon cours de Moyen-Âge avec Harold le Chevalier, la table ronde et tout ça. J'ai beaucoup de personnages, mais 3 pages à chaque fois, et des dessins catastrophique, beaucoup de sang.
Moi, je rêve de faire une BD. Là, j'ai sorti le tome 3 de Roger et ses humains, mais je fais que le scénario. Et c'est vrai que j'adore le dessin, mais là, problème, c'est que j'ai pas maintenu vraiment mon niveau de dessin. Mais si, par exemple, on m'enlève Internet pendant un mois, mais
c'est sûr et certain,
mec, je fais 30 pages, tu vois, y a aucun doute.
Dans l'animation.
Attends,
de...
et toi, tu dessines?
Tu dessines?
Non, moi, je suis un piètre dessinateur. J'ai jamais su dessiner. Mais il y a toujours ce truc où, moi, ça me fascine un peu les gens qui savent bien dessiner parce que, bien évidemment, pour moi, ça paraît impossible. C'est trop dur, quoi. Donc, quand je vois des gens dessiner, je me dis, waouh, mais comment ils font? En fait, il y a un truc dans leur cerveau qui fait que, un truc dans leur cerveau que moi, je n'ai pas et eux, tu vois, ils peuvent dessiner comme ça. C'est incroyable.
J'ai fait une interview combinée papier-crayon, je sais pas comment ça va. Mais c'est ce qui est horrible parce que tu dois dessiner vite tout en parlant, ce qui
c'est un délire, ça.
Et là il y a un consensus vraiment parmi les dessinateurs, il faut pas faire ça, tu vois.
Ah, je sais pas.
C'est trop dur, quoi. Soit tu peux remplir un truc ou faire des trucs un peu répétitifs sur ton dessin.
Le truc que tu dessines depuis des années, comme Matt Groening quand il te fait un Bart Simpson.
Ah bah oui, là tu peux
regarde.
Ah, c'est ça, exactement. Ça va, tu vois. Mais là il me dit dessine-toi quand t'étais petit, tu vois, ou je sais pas quoi, et putain. Et il me dit, et je commence à dessiner, il me fait parle un peu. Et donc c'est un exercice plutôt...
Alors qu'est-ce que tu fais là? Écoute, je suis en train de faire une assure.
Non, mais ouais, donc j'aimais bien dessiner, mais pareil, quand j'étais petit, j'écrivais beaucoup d'histoires.
Ah.
Il y avait un ordinateur à la maison et il y avait une imprimante et tu pouvais ajouter des dessins sur les histoires, etc. Donc je créais beaucoup d'histoires et puis ma mère les classait. Il y avait des recherches de trésors, ce genre de trucs. Donc il y avait aussi quand même une influence BD dans ce que j'écrivais, parce que comme je lisais Tintin... Astérix et tout, il y avait un truc un peu, tu vois, qui s'en rapprochait et tout.
J'adorais aussi, moi aussi, j'ai écrit des histoires. Et j'avais même fait des trucs assez improbables, qui étaient des sortes de, pas des escape games, mais des pistes au trésor avec des dossiers. Je créais un dossier, que j'appelais porte de gauche, porte de droite. Ces deux dossiers, je les mettais dans un dossier qui s'appelait maison. Ah. Et en fait, tu cliquais sur rue. Ah. Et après, t'avais à gauche, à droite. Et puis, tu cliquais sur la maison du milieu. Et en fait, et puis t'avais tu pouvais revenir en arrière. Enfin, c'est une sorte de petite aventure où juste ouvrais des dossiers, il y avait rien dedans, tu vois. bon, voilà, c'était. C'est et oui, bien sûr, Word, j'avais torché des trucs, des aventures de,
C'est cool.
Est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes.
La croustillante.
Sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre.
Ça croustille.
Alors préparez vos masques à oxygène car cela risque de vous couper le souffle.
Oh là là.
Putain.
À chaque fois, la phrase.
C'est plus sérieux, la phrase. Là.
Alors, pour commencer, figurez-vous.
Maintenant, j'ai envie de lire tes histoires, en fait. quand je vois ta plume, je fais, il faut que je lise ce truc.
Alors, pour commencer, figurez-vous que Albert Uderzo détestait le film. Il était tellement déçu d'avoir donné son accord que quelques années plus tard, il a refusé que Gérard Jugnot réalise un troisième Astérix avec la bande du Splendide. Jugnot qui était dépité puisqu'il avait bossé durant 8 mois sur le script. Ça aurait été pas mal, Astérix version Les Bronzés, non?
Ça
non.
dépend à quel moment. Mais
non, ça peut être pas mal, ça aurait pu être cool.
Ah, tu crois?
Les Bronzés 3,
j'insiste. Mais qui pour Obélix?
Bah non, mais ça aurait été Depardieu.
Thierry Lhermitte.
Non, ça aurait été Depardieu, sauf que ça aurait été à la sauce Splendide avec. Bien qu'il y a quand même, dans le film, il y a des acteurs du Splendide, il me semble.
Bah,
il
y a Clavier.
Il n'y en a pas un autre?
Il y a Thierry Lhermitte? Non, je me rappelle pas.
Non, il y a juste Clavier, en fait. Ça manque de panache, du coup, ce que je viens de dire.
Il y a pas Josiane? Non, il y a pas Josiane. Non, je crois qu'il y a pas.
À la base, Goscinny et Uderzo se sont inspirés du film Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, sorti en 1963. Mais au moment d'adapter la BD, Alain Chabat n'était pas convaincu, car pour lui, ce film allait nécessiter un budget trop conséquent. Il avait donc commencé à bosser sur Astérix Légionnaire. C'est finalement le coproducteur Claude Berry qui assura à Chabat qu'il aurait les moyens de réaliser une sorte de
péplum. Ouais, qui lui a dit vas-y à fond.
Ouais, exactement. T'auras la thune, en fait.
Trop bien.
C'est cool. Le fameux monologue d'Edouard Baird a failli ne jamais exister car les autres producteurs du film ont mis la pression sur Chabat pour que cette impro qui jugeait ennuyeuse soit coupée au montage. Chabat a tenu et finalement cette tirade est 19 ans plus tard un des moments les plus cultes du film.
C'est génial.
Est-ce qu'on pourrait la citer là de tête tous ensemble?
Non. T'y arrives toi ou pas?
Attends, ça commence
par. La vie, c'est avant tout une histoire de rencontre, non? C'est pas ça.
Ouais, c'est ça. La vie, c'est avant tout une histoire de rencontre.
Il n'y a pas de bon et de mauvais.
Ah oui, bah oui. Ah, voilà, il n'y a pas ça. De bonne ou de mauvaise situation.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ça commence comme ça.
Bon, bah, on est nul, en fait. Je pensais qu'avec 4 cerveaux, on aurait pu reconstituer. Non, on a le début, vaguement.
Et d'ailleurs, en revoyant le film, ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas vu. Et je trouve que c'est tellement bien choisi. Claude Rich, pour jouer Panoramix, il le joue tellement bien, Panoramix. Tu sais, il a une sorte de douceur et de, tu vois.
Ah ouais, c'est trop bien.
En vrai, le premier casting du premier film, c'est vrai.
C'était lui ou pas? C'était Claude Rich?
C'est lui.
Ok, d'accord.
Je crois, En tout cas, je trouve que le casting était réussi quand même.
C'est marrant parce qu'on disait tout à l'heure qu'on avait moins de place pour Depardieu et Clavier, mais je trouve que leur scène à eux deux, quand ils sont juste tous les deux.
Ouais, c'est fun.
Je les trouve un peu naze en fait. Ouais. Tu sais, la scène où il arrache le nez du sphinx, elle est longue. Il est là,
c'est la BD pour le coup, ça.
Ouais, c'est bon.
Ça, c'est vraiment la BD.
En fait, je pense qu'au moment où c'est sorti, c'était tellement fort tous les guests, les trucs et tout, que du coup, la BD. Paraît un peu plus fade. À l'ancienne. Ouais.
Et je pense aussi que les gens, quand le film est sorti, en vrai, ils y allaient vraiment déjà pour Jamel, je pense, parce que on réalise pas, mais c'était méga star à l'époque.
Ça n'était pas du tout.
Mais il y avait un truc où Jamel, et puis même, il y avait un côté, c'était aussi, il y avait un truc d'époque, par exemple, la musique de fin, c'est Jamel avec Snoop Dogg, etc. Il y avait toute une ambiance d'époque où.
C'était un peu, mélange rap, hip-hop, machin.
Jamel, c'était un peu mode d'époque.
Nulle part ailleurs, époque DJ Blaze.
Exactement. Alors, le réalisateur de ce film, c'est Alain Chabat, mais figurez-vous que c'est aussi un peu Luc Besson. Non. Et ça, tu dis pas non?
Ah bon?
Eh ben voilà, tu vois. Un jour, il l'a appelé en lui disant, ça me ferait marrer de venir pour tourner une scène. Alors, Chabat lui a répondu, ok, mais tu veux venir quand? Ce à quoi Besson a répondu, le jour où c'est le plus compliqué. Et du propre aveu de Chabat, ce jour-là, Besson a réalisé des plans, je cite, mortels, avec 2000 figurants. Et je me suis renseigné,
c'est la danse quand tout le monde.
Alors ouais, voilà, il y a cette scène qui est compliquée. Mais il y a aussi un autre plan, et je pense que c'est celui-là dont il parle. Il y a une scène où on voit Depardieu se baisser pour récupérer une sorte de cafard.
Ouais.
Et en fait, quand il se relève, on voit un plan gigantesque, un peu à la Spielberg, avec plein de figurants en train de travailler sur la construction du palais. Et je pense que c'est ce plan-là qu'a réalisé Besson. Je pense
que c'est le clip à un moment. Ils dansent tous.
Ouais.
Et peut-être. Là, c'est genre un nombre de décors, de trucs, etc.
Ouais, très dur.
Le plan de la mouche. Vous rappelez qu'il y a une mouche qui va sur.
Ça, c'est une référence du coup à Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone.
Ouais.
Quand la mouche va sur le visage de Depardieu, c'est ça?
C'était une impro.
La
mouche. Ils font un plan et il y a une mouche qui va dessus et lui le.
Comme c'est un délire un peu western à ce moment-là parce qu'il a des méchants devant lui.
Moi je pensais que c'était une impro.
Moi je le prends comme une référence parce qu'il y a une petite musique un peu western derrière. Ouais. Là il a des gens devant lui.
Mais ça le western donc... oui mais la mouche tu peux il était pas contrôlé, c'est vraiment posé sur sa gueule et lui il a.
Je pense qu'ils ont jeté la mouche parce qu'en fait il y a un regard entre les Romains et lui, petite musique western, gros plan sur le visage donc très léonien dans le style.
Ouais, bien sûr, ouais.
Et dans Il était une fois dans l'Ouest, ça commence avec un plan où on voit des mouches sur le visage des types qui se toisent un peu.
Ouais.
Donc moi je le prends comme une ref, après peut-être que c'était
Je pense que c'est de l'impro.
Ah ouais, tu
c'est
crois
C'est ma conviction.
Ou alors peut-être que la mouche est arrivée, c'était pas prévu et qu'après comme tu le disais comme il aime bien rajouter des trucs en post-prod, peut-être que c'est là qu'il a rajouté une musique de western en disant ça va faire une ref à Il était une fois dans l'Ouest.
Peut-être. Mais
en tout cas, c'est intéressant.
Que c'est de la pro et qu'il faisait le perso, qu'il y a une mouche qui a fait, et lui, il a fait genre, tu vois, genre un petit.
Ça fait peut-être juste une dédicace à tes mouches de Fort Boyard.
C'est tout à fait.
Jean-Pierre Bacri, qui nous a hélas quitté il y a quelques semaines, a un peu participé à la création de ce film également, puisque Chabal lui a envoyé une première version du montage. Et au final, Bacri lui a fait quelques retours en ajoutant des idées et des blagues qui ont été ensuite ajoutées. Du coup, Bacri a un peu sa patte dans le film.
C'est cool, ça.
Joey Starr devait à la base interpréter un personnage appelé Nick La Police, mais version lutèce dans l'écriture, genre N-I-K-L-A-P-O-S. Ouais, il a été finalement coupé au montage lors de la quatrième version du scénario.
Alors, j'ai regardé, du coup, sur le fameux DVD hein, que j'ai torché. J'avais regardé forcément les scènes coupées. Je me souviens pas de ce truc-là, Nick La Police. Ah, si, peut-être.
Non, il était coupé en quatrième version du scénario.
Ah, du scénario,
ouais, voilà.
Ok.
Dans le film, il y a Chantal Lobby, mais pas Dominique Farrugia. Les nuls n'ont donc pas été réunis complètement pour ce film, car Farrugia n'était pas disponible durant les dates de tournage. Cependant, il se grime en Cléopâtre dans les bandes annonces. Donc, ils sont finalement
Ouais. Bah, attends, mais le tournage était interminable, donc. Est-ce que c'est vraiment un truc de dispo? C'est bizarre. Hein,
bah moi, de ce que j'ai lu, apparemment,
ça a duré très longtemps, donc je pense. Que...
Bah de ce que j'ai lu, c'était problème de dispo date, mais il faut savoir qu'à cette époque, il avait plein d'activités, Farrugia, parce qu'il avait racheté Comédie, donc c'était le boss de la chaîne Comédie. Il montait sa prod, il a fait des films, etc. Donc
ouais, peut-être. Ouais.
Ce que j'ai remarqué, c'est que Cyprien, il prend aucune anecdote pour argent comptant, d'accord.
C'est vrai que je suis le pire.
Ça bizarre, parce que c'était un peu long son âge. T'es sûr de ton info?
Je fais bien de le rappeler, merci, désolé.
Un easter egg très drôle. On peut voir dans le film, forcément, des hiéroglyphes. Et ces hiéroglyphes... Alors, t'es sûr qu'il y a des hiéroglyphes dans le film? Je suis pas certain, moi.
Non, je suis sûr de ça.
Eh bien, ces hiéroglyphes, même là, il y a une vanne, et ça que j'adore avec Chabat, et tout à l'heure, tu le disais, il adore rajouter des petites vannes, même après, avant, etc., un peu partout. Ces hiéroglyphes veulent dire, concrètement, si vous pouvez lire ça, c'est que vous êtes un égyptologue. C'est ce qui est marqué en fait.
C'est cool ça.
C'est assez drôle. Et enfin pour terminer, figurez-vous qu'à ce jour, il n'existe toujours pas de version Blu-ray de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre en France. Je trouve ça fou.
Bravo.
Ah ouais.
Il n'y a pas de version Blu-ray de ce film. Ça n'existe pas. Alors ça existe en Allemagne. On peut la trouver avec la jaquette en version allemande. Donc là, il y a la version française.
C'est un film qui est sorti dans le monde entier.
Oui, il a d'ailleurs été racheté par Miramax, figure-toi.
Ah ouais.
C'est assez incroyable.
Mais j'imagine qu'il y a. T'as que 10% de la saveur si tu connais pas les références françaises.
Ouais, bah, figurez-vous que quand même, je trouve ça assez énorme, mais aux États-Unis il a fait 450 000 entrées.
Mais non.
Je trouve ça énorme quand même.
Il y a bien 450 000 Français aux États-Unis.
Tous les Français,
hein.
Non, mais je pense qu'aussi les adorateurs de BD, parce que comme ça tournait tellement Astérix.
C'est vrai qu'il y a un petit peu l'aura.
Donc, mais après, est-ce qu'ils captent les vannes?
Bah, regarde, en fait, quand on regarde, là, j'ai regardé les chiffres de Astérix, la BD, chaque nouvel album, il sort à 5 millions d'exemplaires et 2 millions pour le territoire français. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 millions dans le monde.
C'est
parce que en vrai, comme on dit là, les blagues elles sont quand même très franco-françaises, enfin européennes au moins, tu vois.
Après, tu changes d'itinériste pour le réseau local américain, tu vois, ça peut fonctionner.
Oui, c'est vrai. Je sais pas comment c'est traduit. Ouais.
On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Oh, première question.
Shit. Mais tu m'as envoyé le truc, j'ai pas. Vas-y, on y va.
Ouais. Le dernier film que tu as vu au cinéma, est-ce que tu t'en souviens?
Ah bah, je pense que c'était Tenet.
Ouais, c'est marrant parce que c'est
souvent
ça. C'est
comme
une dite net à chaque fois.
Et j'aurais adoré voir Adieu les cons, mais je suis pas allé dans les salles de cinéma entre les deux confinements, donc oui, malheureusement, c'est net.
Le dernier film que tu as vu via une plateforme, peu importe la plateforme.
Terminator 2.
Ah, cool.
Que j'ai dû acheter, en plus.
Ah bon?
Ah ouais?
Ouais, il y a le 1 sur. Je sais plus, il y en a un sur Amazon, l'autre qui est sur le 3, qui est ailleurs, quoi. Et le 2 est absolument introuvable, donc j'ai dû le.
Ça faisait longtemps que tu l'avais pas vu.
Canal, ouais. Et ouais, en fait, j'écris un truc avec des robots en ce moment. Mm. Et donc, du coup, je me rematais des films à base de robots. Et pour le coup, Terminator, je les avais pas vus, le 1, j'avais pas vu, en fait.
Ok.
Donc, j'ai fait le 1.
Scène préférée de Terminator 2?
Scène préférée de Terminator 2. Je sais pas, quand il passe dans les barreaux et qu'il y a son arme qui reste culte. Là. J'adore ça.
La dernière série que t'as regardée?
Waouh, bah c'est série documentaire, donc celle sur
Richard Ramirez.
Comment s'appelle le documentaire?
Night Stalker.
Ouais, Night Stalker.
La dernière chanson que tu as écoutée?
Ah bah là j'écoutais Radiohead sur le trajet en vélo.
Quel titre?
Et donc c'était Paranoid Android.
Le dernier livre que tu as lu?
Ah, le dernier livre que j'ai lu. Putain, mais j'aurais dû bosser le truc, tu vois.
Dune, probablement.
Alors Dune, t'as vu le film ou
bah, juste le très livre. Souvent quand il y a un film qui va sortir. Ah, moi, je suis un grand fan en plus de SF et Dune, c'est un des rares trucs que j'ai pas lu, tu vois. Mm. Et donc.
Parce que c'est massif le Dune quand même.
Ouais, ouais, tout à fait. Et très gros. Et je dis que je l'ai lu, mais en fait, il me reste encore quelques chapitres et je suis dedans. Mais voilà, c'est dès qu'il y a un film qui sort, qui est adapté, il faut absolument. Si je sais que je veux aller le voir, il faut absolument que je lis le livre. Mais pour moi, c'est hors de question de faire l'inverse. Quoi.
Voilà. La dernière BD ou le dernier manga que tu as lu?
Moi, je suis un grand fan de Naoki Urasawa. Et qui a fait notamment Monster, 20th Century Boys, tout ça. Et là, il sort un nouveau truc qui s'appelle Asadora. Et donc voilà, en ce moment, je dis ça.
Ok. Le dernier objet culturel que tu as acheté, physique?
Objet culturel en des prints. Moi, j'achète beaucoup de prints.
Ok.
Donc voilà. Ça. Là, c'est un mec qui s'appelle Pablo Dallas et qui prend des personnages de pop culture un peu à l'ancienne. Tintin, par exemple. Et en fait, il les agglutine, les personnages sont un peu, tu sais, comme dans Akira quand ils se transforment. Mmh. Et donc, les personnages sont tous dégueulasses, mais c'est quand même les yeux qui se dupliquent, etc. Et c'est vachement graphique.
Et du coup, il représente quoi, le print que t'as acheté?
C'est Daffy Duck, qui, ouais, t'as plein de son visage qui est un peu modifié comme ça.
Okay.
Et j'ai aussi acheté un pull où on voit le Tintin qui se duplique. Ouais, j'aime bien.
Et enfin, le dernier artiste que tu as scroll sur Insta, ou hors compte que t'aimes bien un peu particulier?
Un conte, un artiste, toc 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 toc. Bah, c'est con, j'ai dit Pablo Dallas déjà. Voilà, je l'aurai tout à l'heure. non, moi je suis énormément d'artistes, des dessinateurs, tout ça sur Instagram. La liste est interminable. Il y a une meuf qui fait des visages de femmes en avec de la peinture à l'huile qui s'appelle Kelsey Beckett, je crois. Un truc
ok.
Ça. Et voilà, je la suis depuis un moment, mais là j'ai vu qu'elle avait posté des trucs sur TikTok et ses techniques sont absolument incroyables. Voilà.
Très bien. Ce podcast est désormais terminé. Cyprien, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu?
Ouais, là il va avoir bientôt mon dessin animé qui va sortir d'ici quelques semaines. Et j'adapte ma série audio qui s'appelle L'épopée temporelle en dessin animé.
Ok.
Donc voilà, c'est 10 épisodes qui vont sortir. Sur une plateforme, donc je vous dirai quand ce sera, voilà. Et ensuite sur YouTube. Et
donc là, tu t'impliques un peu dans les idées de dessin, justement.
Je fais pas le design parce qu'il y a carrément un character designer qui fait ça. Bertrand qui a bossé pour DreamWorks, pour plein de gros trucs, qui vit aux États-Unis aujourd'hui et qui nous a fait des personnages incroyables. Donc si je touche, ça sera moins bien. Donc tu vois, je n'y touche pas. Et un dessin animé, c'est vraiment c'est une industrie quoi, tu vois. Donc t'as un chef animateur, t'as les animateurs, t'as les chefs background, etc., etc. Donc moi je réalise la série, donc j'ai mon mot à dire sur, je dirige un petit peu tout ça. Mais ensuite les artistes sont très souvent plus doués que toi, donc voilà, tu laisses. Mais oui, c'est super de bosser sur un dessin animé, c'est vraiment formidable. En plus, je produis le truc, donc c'est d'autant plus. J'étais vraiment au cœur de ça. C'est formidable. Dessin animé, vraiment, j'adore. J'espère en faire toute ma vie, et j'espère aussi faire le. C'est l'idée, c'est de faire aussi saison 2 et 3 d'un dessin animé.
Et donc, ça sort quand alors la date?
Ça sort, si tout va bien, en avril.
Très bien. C'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Astérix et Obélix Mission Cléopâtre.
Ouais.
Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinémateur dispo sur le site de Wheel of Cinema. Merci à Tim et Ninon qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Bye tout le monde.
Auf Wiedersehen.
Salut.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.